Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alors, avant de démarrer l'épisode, j'ai un petit message à vous faire passer et qui va particulièrement intéresser tous ceux qui se sentent souvent fatigués, épuisés et qui aimeraient retrouver toute leur énergie. Vous connaissez Jack, il était mon invité sur l'épisode 182 et vous aviez adoré l'épisode que j'avais fait avec lui. 90 000 vues sur YouTube, des dizaines de milliers d'écoutes sur Spotify, des chiffres hallucinants pour un épisode technique. Eh bien, figurez-vous que Jack, il a longtemps lutté contre la fatigue chronique, contre les coups de mou, contre cette sensation d'être constamment épuisé dans sa journée. Eh bien, devinez quoi, il a réussi à transformer sa vie en appliquant les bonnes méthodes et des techniques simples et efficaces. Et il a créé une formation qui est révolutionnaire et qui s'appelle 30 jours énergie. Elle permet de retrouver sa vitalité et sa motivation en seulement 30 jours. Et j'ai eu l'occasion de découvrir et de suivre ce programme de formation en intégralité. Et je dois dire qu'il est assez impressionnant et extrêmement qualitatif. On y retrouve des techniques pour améliorer son alimentation, pour améliorer son sommeil, pour gérer son énergie. Et franchement, il y a des astuces auxquelles on n'aurait pas pensé. Certaines qui sont vraiment novatrices et je les ai découvertes au fur et à mesure de la formation. Et en plus, Jack, il explique super bien. Il est passionné par son sujet et il transmet ça à merveille. Et aujourd'hui, eh ben, je vous propose, vous aussi, de découvrir le programme 30 jours énergie. On en a longuement parlé avec Jack et on a décidé de vous faire un super cadeau. Alors, vous connaissez mon talent pour la négoce et en tant qu'auditeur du podcast, Jack a accepté de vous offrir une réduction de 100€ sur le prix de la formation. Et pour en profiter, c'est très simple. Vous allez dans la description de n'importe quel épisode, vous cliquez sur le dernier lien qui correspond normalement à la lettre, mais vous serez redirigé vers la formation. Et vous pouvez aussi retrouver la page en tapant directement dans votre barre de recherche biomecaniquepodcast.com/énergie. Cette offre, elle est valable uniquement cette semaine, alors ne la manquez pas. C'est une opportunité en or pour dire adieu à la fatigue et retrouver une énergie constante. Par exemple, vous allez notamment apprendre comment modifier vos repas pour booster votre énergie, comment avoir un sommeil plus réparateur, quelles sont les méthodes les plus efficaces aujourd'hui pour gérer son énergie au quotidien, quels sont les meilleurs compléments à prendre. Bref, c'est rempli de conseils pratiques, de routines simples et d'astuces qui sont efficaces pour que vous puissiez vous sentir au top de votre forme. Et en plus, Jack, il est tellement confiant dans l'efficacité de sa méthode qu'il vous offre une garantie. Si vous ne voyez pas d'amélioration dans votre énergie dans les 30 jours, vous serez remboursé intégralement. Vous avez donc absolument rien à perdre. Donc, je répète une dernière fois, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode ou alors vous tapez biomecaniquepodcast.com/énergie dans votre barre de recherche et vous aurez la réduction de 100€ sur la formation. La promo se termine dimanche prochain, le 26 mai, traînez pas et maintenant, place à l'épisode.
Donc, en fait, le style de vie, quand on est sportif, c'est le sport qui va le dicter, mais au fur et à mesure. C'est pas un pack complet. Je pense que le style de vie vient s'articuler et se greffer par rapport à la pratique sportive.
Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, à comprendre vos douleurs et diminuer vos blessures, et qui vous permet aussi de découvrir les secrets des athlètes et spécialistes de leur domaine. On y parle entraînement, performance, blessures, nutrition, tout ce qui touche de près ou de loin à la santé également, avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal, au Canada, et j'ai le plaisir de recevoir Théo de Fitness Miss pour ce nouvel épisode. Passionné d'entraînement, de nutrition et de développement personnel, Théo y tient le site fitnessmiss.fr et il est présent sur YouTube depuis presque 10 ans, avant même que le fitness devienne la mode. Il a également un podcast qui s'appelle La Pause Fitness, où il décrypte des sujets autour de l'actualité, du fitness et de la santé. Alors ce que j'ai toujours apprécié chez Théo et son contenu, c'est sa façon d'aborder des sujets autour du sport et du mode de vie qui l'accompagne. Il parle des régimes qui fonctionnent, des entraînements sportifs à tester, de la mise en place des habitudes saines, toujours autour de sa routine personnelle, de son travail, de ses contraintes. Et son but, il rejoint le mien, donc à travers ce podcast, à savoir être en meilleure santé, en meilleure forme physique et avoir des résultats qui sont vraiment efficaces et tenables sur le long terme. J'étais donc ravi de pouvoir discuter avec lui autour d'un nouvel épisode du podcast sur des sujets comme comment adopter enfin de bonnes habitudes, les ancrer dans son quotidien, comment ne plus trouver difficile d'aller au sport ou de se faire à manger sainement, le grand mensonge de la motivation pour vraiment passer à l'action tous les jours et comment remplacer ce concept inefficace par des bien meilleures solutions. Il nous a partagé le top 7 de ses podcasts préférés du moment. On a discuté des bases de la nutrition et du manger équilibré, quels sont les meilleurs moments dans la journée pour faire du sport et quelle est son expérience avec des ostéopathes et kinésithérapeutes pour se maintenir en meilleure santé possible. Comme toujours, vous avez dans les notes de l'épisode le lien vers la lettre biomécanique que vous pouvez aussi retrouver sur biomecaniquepodcast.com/lettre. Vous pouvez toujours vous inscrire, vous ferez partie de mes contacts privés. Ainsi, vous recevrez mes emails lors de la sortie de chaque nouvel épisode avec des conseils et réflexions exclusifs que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. C'est aussi pour moi le meilleur moyen de vous contacter si je veux partager mes nouveautés ou découvertes du moment. Tout de suite, je vous laisse écouter ma discussion avec Théo et je vous retrouve en fin d'épisode. Est-ce que tu pourrais nous parler, dans un premier temps, de ta première expérience dans une salle de sport, ou en tout cas la première fois que tu as fait une activité sportive, si tu t'en souviens?
Alors, c'est intéressant comme question, parce que je vais pas prendre le cas de la salle de sport, parce que c'est pas ma première expérience. Ma première expérience avec un souvenir fort, c'est la natation. Comme tous les gosses, mes parents, à un moment donné, ils m'ont dit « bon, ben, faut que tu apprennes à nager ». Donc bon, j'étais petit, j'avais moins de 7 ans, hein, donc ils m'ont dit il va falloir que tu apprennes à nager, donc on t'a inscrit dans un cours de piscine. Et pour moi c'était impossible, tu sais, de du jour au lendemain comme ça de me mettre dans l'eau et de nager. Et en fait, j'ai fait la première expérience de ma vie de la, comment on appelle ça déjà, ça a un nom, ça c'est pas l'inconscient collectif, mais tu sais, quand le truc social, là, en marketing, ils en parlent beaucoup de ça. La preuve sociale, voilà.
La preuve sociale.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu tous les autres gosses au cours de piscine se jeter dans l'eau et nager. Et en fait, j'ai fait pareil, j'ai appris à nager comme ça. Et c'est la première expérience que j'ai eue avec le sport, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand on est tout seul, isolé, comme ça, dans son coin, on se pense pas capable. Et puis, le fait de voir tout le monde le faire, ben, j'ai sauté dans la piscine et j'ai réussi à nager. J'ai fait, comme on dit, le petit chien, tu sais, j'ai battu des jambes et des bras pour rester à la surface, mais j'ai pas coulé et j'ai pas eu peur. Donc voilà, c'était ma première expérience, on va dire.
Ça me donne l'occasion juste de revenir sur la natation. Est-ce que toi, t'étais fait pour, dans un sens, lorsque t'as commencé, t'as remarqué que t'avais certaines aptitudes, et ça me permet de parler de la natation. Est-ce que c'est un sport qui muscle particulièrement, parce que on voit souvent les nageurs qui sont assez développés, en tout cas du haut du corps, qui ont des larges, enfin très souvent ils ont des larges clavicules, ils ont des thorax assez, alors ils sont plutôt plats, mais ils sont assez évasés. Est-ce que c'est la natation qui, tu penses, crée cette structure ou fait développer un corps, ou plutôt l'inverse, on est bon parce qu'on devient, enfin, on est bon en natation parce qu'on est déjà fait pour. Juste pour éclaircir ce truc, si toi t'as déjà remarqué des idées là-dessus.
Je vais te faire une réponse en deux temps. Premier temps, je vais m'appuyer sur Delavier et ses travaux, et je pense qu'il a raison dans beaucoup de domaines liés à ça. Je pense que ceux qui performent et ceux qu'on observe le plus sont ceux qui étaient déjà faits pour, qui avaient la morphologie. Donc du coup, forcément, ça induit en erreur par rapport au débutant qui va vouloir ressembler au nageur en faisant de la natation. Je pense que le nageur qui performe avait la morphologie pour qu'il performe. Après, voilà, il y a certainement eu un entraînement et tout derrière, il n'y a pas de problème avec ça, mais il y avait quand même cette morphologie de base qui l'aide à performer. Et deuxième réponse, j'avais un ami quand j'étais ado, que j'ai perdu de vue, mais qui nageait beaucoup et à haut niveau. Et j'ai le souvenir qu'il était charpenté un petit peu comme les nageurs, mais dès l'adolescence. Donc ça vient un petit peu valider ce que je viens de dire par rapport à ce que aux travaux de Delavier. Je pense vraiment qu'il y a ce côté où la largeur d'épaule va pas se développer, par exemple, parce que souvent on dit ils ont les épaules larges. Je pense pas que ça se développe avec que la natation. Après, autre chose, tous les sportifs de haut niveau, donc ceux que nous, on va voir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors des compétitions, etc., les points de référence qu'on peut avoir, ce sont des sportifs de haut niveau et ce sont en règle générale des personnes qui vont en salle de muscu. Alors, ils vont pas faire des entraînements de type bodybuilding, mais ils vont avoir un entraînement pour muscler les muscles moteurs pour la nage, quoi. Donc, forcément, ça va, ils vont avoir certainement un physique un petit peu différent de quelqu'un qui ferait du fitness, tout simplement parce que lui, il travaille les muscles dont il a besoin. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les gens ont l'impression que la nage développe certains muscles. Moi je pense plutôt que c'est les nageurs qui travaillent certains muscles en salle et donc du coup le physique est pas harmonieux comme un physique fitness, ce qui veut pas dire qu'il est pas beau, hein. Ça veut dire que c'est pas la même harmonie et donc du coup ça crée cette différence de point de vue un petit peu. On pourra en parler pour le rugby, pour tout un tas de sports. Je pense que quand on a un objectif de performance et non esthétique, on travaille ce qu'il faut et pas tout. En fait.
Donc toi à ce moment-là, tu avais absolument pas d'objectif de performance, en tout cas lorsque tu as sauté dans l'eau la première fois, évidemment.
Si j'avais pu rester à la maison, je l'aurais fait. Toujours pareil, quand tous tes copains à l'école, ils savent nager et pas toi, tu as envie, mais bon, tu sais, quand t'es gosse, t'as toujours peur, hein, t'as pas envie de sauter à l'eau. Et je me rappelle d'aller à la mer ou au bord de la piscine avec mes parents, j'avais pas envie d'y aller. Et là, c'était intéressant. De sauter avec tous ces gosses et puis d'y arriver. Mais non, c'est pas quelque chose qui m'a branché. Ben, j'en ai fait un an ou deux, je crois. J'étais inscrit, donc il fallait que j'y aille. Mais ça a pas du tout été un sport passion pour moi.
Bon, je connais un petit peu ton parcours. D'où tu viens, ou c'est que t'as commencé, en tout cas, tu n'avais pas le physique ou en tout cas les habitudes de vie que t'as aujourd'hui. Comment t'es passé de cette première expérience de natation à la pratique du fitness? Alors j'imagine que ça s'est pas fait d'un coup, ça a été progressif. Ouais. Peut-être rappeler pour ceux qui écouteraient le podcast et qui savent pas qui t'es exactement. T'as pas démarré avec un physique écorché, non. Musclé. Je veux dire, ça n'a jamais été ta génétique de départ,
non.
On va dire.
Déjà j'ai toujours été plus ou moins. Alors pour retracer. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu beaucoup d'appétit. J'ai eu la chance, et vraiment, je les remercie, mes parents. En fait, ils n'ont pas eu de moyens, donc du coup, on mangeait, il n'y avait pas de gâteau. Tu vois, mon goûter, par exemple, c'était un morceau de pain avec du chocolat noir. J'avais très peu de céréales du petit déjeuner très sucré et tout, parce que bon, voilà, et on mangeait pas mal de légumes du jardin et tout ça. Donc, ça a été pour moi une bénédiction, d'un côté, parce que même si j'étais gourmand, je ne pouvais pas me tourner vers des aliments très transformés. Mais j'avais quand même ce petit surpoids. Alors, disons que j'étais pas réellement en surpoids, mais par rapport à tous les autres, j'avais pas les abdos apparents. J'avais, tu vois, les gosses, quand on les regarde, qui sont tout secs. Moi, c'était pas mon cas. Donc, j'avais une facilité à prendre du poids, plus un appétit assez féroce. Mais pour répondre à la première partie de ta question, qui était comment je suis arrivé de cet état-là à ce que je fais maintenant, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, au niveau du sport, j'ai toujours cherché quelque chose qui me plaise à faire en permanence. Et donc, du coup, j'ai essayé pas mal de sports. Le basket, ça me plaisait bien sur le papier, et quand j'en ai fait, ça me plaisait moyen. Le foot, pareil. Et il est arrivé un moment où ça a été plus des sports un peu plus, on va dire, liés au corps. Donc ça a été quoi, ça a été le kung-fu, karaté, un petit peu de boxe thaï aussi. J'aimais bien, mais c'était pas ce que je recherchais. Et pendant une période, j'ai même fait du skate à haut niveau, puisque j'ai fait de la compétition et tout. Là, je me suis vraiment investi, j'étais très passionné, que j'ai abandonné à la fin de l'adolescence. Et à la fin de l'adolescence, donc début, on va dire, peut-être pas de l'âge adulte, parce que j'avais 16 ans à peu près, 16-17 ans, j'ai un ami qui est revenu de vacances en Corse, et il y était avec d'autres potes à lui, et dont un était gymnaste et faisait de la muscu, et donc du coup il avait un corps un petit peu athlétique. Et moi je l'avais jamais vu, ce gars-là, mais c'est mon meilleur ami qui m'a dit, il avait un corps, t'aurais vu ça, les bras, les pecs et tout ça, c'est génial, je me mets à la muscu, il m'a dit viens avec moi, on en fait en septembre, on s'inscrit. Bon, j'ai dit pourquoi pas. On a réussi à motiver deux autres potes et on s'est retrouvé à quatre à aller s'entraîner, je crois quatre ou cinq, je sais plus, non, je crois qu'on était quatre. Et sur les quatre, j'étais le seul en surpoids, Et donc, j'avais pas du tout le même objectif que mes potes qui, eux, voulaient prendre un petit peu de masse musculaire. Moi, je voulais me muscler, bien sûr, pour, bah, voilà, être plus fort et tout ça, parce que c'est quand même un bon facteur de motivation quand on est ado. La problématique, c'est que je voyais que je progressais en termes de masse musculaire, que mon tour de bras grossissait, etc. Mais je restais toujours gras. En fait, mon taux de gras restait exactement le même. J'avais conscience qu'il fallait que je m'attarde un petit peu sur la nutrition, mais bon, c'est comme aujourd'hui pour tous. Enfin non, c'est pas comme aujourd'hui justement, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'informations disponibles tout de suite. Avant, les informations c'était le magazine, c'était une fois par mois, et voilà, il fallait réussir à lire entre les lignes, comprendre ce que ça voulait dire, et c'était un petit peu compliqué. Mais encore une fois, j'ai la chance, comme pour le skateboard par exemple, d'être très passionné. Quand je veux quelque chose, en fait, dans ma tête, je veux être le meilleur, mais pas le meilleur pour le montrer aux autres. Je veux être le meilleur pour ne pas douter de mes choix, de faire toujours le meilleur choix, d'avoir toujours les dernières infos, etc. Parce que je m'applique tout ce que je recommande aujourd'hui dans mon travail aux autres. C'est des choses que je me suis appliqué ou que je m'applique au quotidien. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, pour continuer, à force de chercher, je te passe les détails, mais je suis arrivé à trouver une forme de diététique qui m'a permis de perdre 23 kilos en 3 mois. Donc, ce chiffre, il est marqué au fer rouge dans ma tête. D'une, parce que j'ai été beaucoup critiqué et traité de menteur, parce que beaucoup pensaient que c'était faux, mais surtout parce que moi, ça a changé radicalement ma vie. Parce que je suis passé d'une personne qui arrivait pas du tout à perdre son poids à une personne qui a eu des grosses facilités à le perdre parce qu'il avait la bonne méthode. Et donc, là, j'ai réussi à voir la masse musculaire qu'il y avait dessous, donc j'étais plus ou moins satisfait. Donc, j'ai continué à travailler pour la développer un petit peu, sans jamais faire de prise de masse, d'ailleurs, ce qui est important de préciser. Et depuis ça fait plus de 10 ans maintenant, je maintiens ce poids, je maintiens ce taux de gras à un chiffre, on va dire. Et voilà quoi. Puis j'en ai fait mon travail parce que bientôt, je crois que je suis à 13 ans de recherche. Il faut bien que je le fasse partager aux autres. Donc c'est devenu mon travail. Donc voilà rapidement comment je suis venu à ça.
D'accord. On reviendra sur le côté alimentaire après parce que je pense qu'il y a énormément de bonnes choses à partager là-dessus. Pour en revenir sur l'idée que tu disais d'avoir trouvé une activité qui te faisait plaisir, en tout cas que tu prenais plaisir à faire. Comment t'as identifié que la musculation ou que le fitness, si, de manière générale, c'était quelque chose qui était fait pour toi? Est-ce qu'il y a eu des critères, des feedbacks, des choses qui t'ont dit, si on peut essayer de donner des idées ou des pistes sur, pour les gens, qui aimeraient trouver une activité qui leur plaise?
Moi, je pense que c'est parce que je me sentais dans la merde physiquement. C'est-à-dire que je pensais que mon physique n'était pas beau à voir, premier point, et autre chose, je manquais de confiance en moi, c'est-à-dire que je me sentais pas forcément capable à l'époque de faire les certaines choses que faisaient mes amis, c'est-à-dire courir plus vite, en fait être, tu sais, un petit peu le winner, je vais pas dire de la cour d'école parce que c'était plus tard, mais entre potes, tu fais un petit peu des compétitions de force, etc., des bras de fer et tout. J'étais pas le premier et j'étais pas le dernier non plus, mais je voulais m'améliorer là-dedans, en fait. Parce que je savais que peut-être que j'avais pas fait suffisamment d'études ou autre. J'avais pas beaucoup de choses sur moi à mettre en avant. Donc c'était lié au regard des autres, hein, évidemment. Et ça, je le reconnais et je pense que beaucoup de personnes le savent aussi, mais se l'avouent pas forcément. Et donc je pense que ce moteur-là, le fait de me sentir un petit peu mal dans ma peau, c'est un gros moteur parce que t'as envie de te débarrasser de ça et t'as envie d'avancer, de plus jamais y revenir. Donc moi je pense qu'un sport t'apporte certainement ou une échappatoire dans ton quotidien qui peut être stressant ou t'as besoin de faire autre chose, ou alors des liens sociaux avec des personnes, ou alors justement un développement personnel qui passe par le mental et le physique, quoi. Moi ça a été mon cas, c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, ça a tellement changé ma vie qu'aujourd'hui c'est un puissant moteur pour continuer.
Ouais, je vois, et il y a un thème qui revient assez régulièrement dans les épisodes. En tout cas, j'en ai parlé avec plusieurs invités. J'essaie de collecter quelques informations. C'est que Chez certaines personnes, c'est pas si facile. Même une activité qui pourrait leur plaire, en fait, il y a toujours cette difficulté à y aller, cette difficulté à continuer à pratiquer. Souvent, on dit qu'il faut avoir du plaisir quand on la pratique, mais faut aussi avoir du plaisir qui est lié au résultat que l'on a de cette pratique. Et la musculation. Je dirais un parfait exemple puisque on attend des résultats physiques qui peuvent se voir dans le miroir. C'est généralement peut-être la première motivation, comme tu le disais. Et comment tu penses qu'il faut trouver la bonne distance entre prendre du plaisir dans le processus, mais s'attendre aussi à un résultat pour justement continuer d'apprécier le processus. Je crois que t'en parlais même dans un de tes derniers podcasts. Tu sais, c'est un peu la question de qui de l'œuf ou de la poule,
ouais,
en fait. Il faut pas être dépendant du résultat, mais en même temps, s'il y a pas de résultat, c'est peut-être difficile d'aller trouver du plaisir dans le fait de pratiquer.
Ben, moi, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui cherchent de la motivation, dans le futur et assez peu dans le passé. Et comment on trouve de la motivation dans le passé? C'est en ayant souffert. Et je pense que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se lancer dans un régime ou à une transformation physique parce qu'ils n'ont pas assez souffert, tout simplement. Y a des personnes qui sont aujourd'hui en couple et en surpoids et ils savent qu'ils doivent perdre du poids, mais ils le font pas. Un jour, leur mec ou leur nana les largue et ils font un lien entre leur surpoids et ça. Et ça leur donne une dynamique en fait pour changer, et là ils se rendent compte que tout d'un coup ils arrivent à aller à la salle tous les jours. Donc il faut regarder à la fois le passé. Est-ce que t'as assez souffert pour vouloir changer? Est-ce que t'es dans une situation trop confortable? En fait, si tu n'as pas encore assez morflé, c'est très compliqué. Et les personnes, tant qu'elles sont pas face au mur, il y en a beaucoup, pour beaucoup en tout cas, elles vont pas y arriver. Après, ça peut être l'envie de s'en sortir. Et donc du coup, on va pas vivre un stress aigu, etc., sur le moment. Mais ça fait des années que ça traîne et on a envie de s'en sortir et on se met à y croire. Donc là, ça va être le résultat futur qui va motiver. Mais après, tout simplement, comme toi tu dis là, ce que j'expliquais aussi dans le podcast certainement, mais pour aimer le processus. Donc en fait, pour moi, le processus c'est le quotidien, de prendre les bonnes habitudes et tout. Il faut se donner des petites carottes au quotidien. C'est-à-dire que si la personne est accro aux jeux vidéo ou accro à une série Netflix ou accro à tout un tas de choses qui sont pas trop nocives non plus pour la santé, eh ben se l'autoriser uniquement après avoir fait son sport. Ça peut être une carotte, et puis respecter le jour où elle saute la séance de sport, ben qu'elle s'accorde pas ça. Et donc du coup, ça peut l'aider à apprécier au quotidien et à savoir pourquoi elle s'entraîne, parce que on sait très bien que les effets du sport et de la bonne nutrition, c'est pas au jour le jour, hein, c'est étalé sur toute une vie. Donc c'est pour apprécier pour réussir à apprécier les résultats dans le futur, il faut être capable de les maintenir au quotidien, les efforts, et donc pour ça il faut trouver des petites stratégies. Et la stratégie de la récompense, c'est la meilleure, parce que de toute façon c'est celle qui nous conditionne depuis toujours, hein, production de dopamine pour agir et à obtenir une récompense. Donc on peut essayer d'aller contre notre neurophysiologie, etc., elle est faite comme ça, donc autant s'en servir.
Tu le disais récemment, t'as plus du tout de toi de difficulté de t'entraîner, de passer à l'action, d'aller faire ton entraînement sportif. C'est devenu complètement normal pour toi. J'aimais bien l'idée que c'est difficile au début parce qu'il y a des changements, mais qu'après c'est plus du tout difficile et il n'y a plus réellement de fierté à avoir dans un sens quand on a vraiment établi ça. Moi je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que de mon côté aussi, aller au sport, alors bon, pas aujourd'hui, en tout cas pas cette semaine parce qu'on est en plein confinement, mais aller à la salle de sport ou faire son entraînement, c'est plus du tout une friction pour moi, c'est quelque chose qui est devenu complètement normal. Donc effectivement, quand on me dit waouh, comment tu fais pour aller X fois faire du sport, ça me paraît pas fou. Et donc je me suis parfaitement reconnu dans ce que tu as dit. Mais est-ce que tu as étudié ou en tout cas tu as des pistes de réflexion sur comment développer une habitude à ce point qu'elle devienne complètement ancrée et normale? Et peut-être aussi par rapport à ton expérience, il t'a fallu combien de temps que tu passes de pratiquant amateur, on va dire, jusqu'à pratiquant normal, ça devient normal d'y aller, où il n'y a plus du tout de friction?
Alors ça, au début, je pense que pour tout le monde, c'est difficile, parce que il faut se rendre. En fait, ça casse nos habitudes. C'est-à-dire qu'on avait une heure à passer à faire autre chose et d'un coup, on se met à faire du sport à la place. Donc, les temps de trajet, etc. Bon, aujourd'hui, moi, je m'entraîne à domicile, mais quand j'ai démarré, je m'entraînais en salle de sport. Donc, il y a quand même les temps de trajet. Il faut organiser tout ça par rapport à son emploi du temps. Donc, quand on est jeune adulte et pas d'enfant et tout, ça va. Mais quand on commence à avoir une famille et tout, c'est une organisation supplémentaire. Donc, forcément, pour prendre une bonne habitude, il faut être capable de placer cette nouvelle habitude dans un endroit qui n'est pas susceptible de sauter au moindre coup dur. Donc, ça veut dire que si, par exemple, la personne décide de s'entraîner à 17h, mais que, on va dire régulièrement, à 17h30, elle a des appels de son patron ou alors ses enfants le sollicitent ou autre, eh ben ça va être compliqué. Donc, autant placer le midi, entre midi et deux, ou alors le matin, je sais pas, mais de trouver finalement un espace un moment de la journée intouchable. Deuxième chose, l'inclure dans son temps de travail et non pas dans son temps de loisir. C'est-à-dire que moi, quand je m'entraînais juste après, quand j'étais encore salarié, mon entraînement était immédiatement après le travail, mais je ne repassais pas par la maison. Et donc du coup, les personnes avec qui j'étais à l'époque savaient, que ça soit mes amis ou mon ex-copine ou autre, savait que je n'étais disponible qu'à partir de 20h et non pas 19h, parce que de 19 à 20, je m'entraînais. Donc, c'était comme ça, en fait. Et j'avais habitué mon quotidien et mes proches à ça. Et ensuite, autre chose, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, les habitudes qui paraissent difficiles au début, à la longue, en fait, elles deviennent de plus en plus faciles. Mais c'est pas qu'elles deviennent faciles ou difficiles, en fait, c'est que ça devient une routine. C'est un petit peu comme faire ses courses. Quand on fait ses courses dans le supermarché, on a tendance à prendre plus ou moins la même chose en permanence. Et donc, c'est difficile de changer ses habitudes alimentaires parce qu'on n'est pas habitué au rayon X ou Y, parce qu'on prend toujours nos courses dans le rayon Z, par exemple. Et ben, c'est un petit peu la même chose. Quand on est habitué à s'entraîner toujours, 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 on n'est plus habitué à faire autre chose. Donc, en fait, déjà, ça nous fait un temps mort où on se sent mal. Parce qu'on se dit, merde, mais normalement, je m'entraîne là et je sais pas quoi faire. Pareil pour la diète. La diète, quand on est habitué à bien manger, les listes de courses se font plus facilement, les courses en elles-mêmes se font plus facilement, faire la cuisine, on sait exactement quel ustensile, etc., on va utiliser. Donc, tout est plus facile. C'est pour ça que moi, je dis régulièrement que manger mal, mais plus difficile que manger bien, parce que je ne sais pas comment manger mal. Je n'ai pas les repères, donc je vais mettre du temps à manger mal. Donc c'est en ça que je vais expliquer aux gens, moi, que on n'a plus de mérite passé un certain temps. Il faut arrêter de croire au mental, etc. Parce que les personnes qui me disent t'as du mental, en fait, elles se rendent la tâche plus difficile parce qu'elles pensent que le mental va être nécessaire tout le temps, ce qui est faux. Et non seulement elles cèdent pas. Mais la personne, si elle dit oui, j'ai du mental, elle non plus, elle cède pas, parce que la personne qui se dit qu'elle a du mental parce qu'elle tient depuis des années, c'est faux. En fait, elle se rassure en disant qu'elle a du mental pour s'éviter de progresser sur autre chose. Et ça, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais de croire qu'on a du mental, de suivre une diète et de s'entraîner tous les jours, en fait, on se ment à nous-mêmes parce qu'on a des habitudes et maintenant c'est devenu facile. Mais on se rassure parce qu'on se dit on fait déjà ça bien alors que plein d'autres le font pas. Mais nous, ça nous empêche de progresser finalement. Ça nous empêche d'aller au-delà, de faire, je sais pas, apprendre une nouvelle langue ou alors se mettre peut-être, se lancer un défi. Ok, la muscu, ça marche bien, mais je vais peut-être essayer de faire du cardio et de performer un petit peu. Tu vois, essayer de trouver comme ça des choses pour casser les routines, essayer de gagner un petit peu du terrain au quotidien, ce qui est pas évident. Hein. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir que ça, c'est pas évident. Mais le fait de tenir une bonne habitude longtemps, ça devient facile avec le temps.
Et souvent, le mental, on va te dire que t'as du mental. On va aussi parler de motivation. C'est un truc qu'on entend. Waouh, t'as de la motivation. Cette personne a de la motivation. Mais en fait, c'est ça. La motivation, c'est peut-être le starter du début, parce que, pour revenir sur ce que tu disais, peut-être qu'il y a une frustration derrière qui te pousse massivement à passer à l'action au début. La motivation, c'est une émotion, je suppose. Je suis pas spécialiste, hein. Mais derrière, au bout de plusieurs mois à effectuer cette bonne habitude, on n'est plus dans la motivation, on est dans la normalité, la routine. J'aimais bien l'idée. Je sais plus quel marketeur en parlait, bon, c'est sur un autre thème, mais C'est un petit peu comme si tu comptes sur la motivation pour qu'il se passe des si tu comptes sur la motivation, c'est un petit peu comme si tu comptais sur le beau temps pour pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Pour pas qu'il te pleuve sur la gueule, alors que la bonne routine, c'est de créer un abri, de créer de créer une maison, un toit, en fait, pour que tu sois un petit peu tout le temps. Je crois que je me perds totalement dans cette métaphore.
Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je peux rebondir là-dessus, en fait, par rapport à la motivation. Comment dire ? La motivation, c'est un petit peu comme un truc qui nous tomberait dessus où on serait capable de faire n'importe quoi. Et beaucoup de personnes cherchent cette motivation sous forme de pilule. Alors quand je dis pilule, c'est ou virtuel, c'est-à-dire en regardant un contenu, ou alors en prenant du réel, c'est-à-dire en prenant, je sais pas, de la caféine ou autre, qui n'est pas vraiment un facteur de motivation d'ailleurs. Mais du coup, c'est un petit peu comme le sportif qui prendrait un booster avant ses séances. On devient dépendant de ça, de cette émotion, de cet état d'esprit. Mais il y a plein de moments où on va pas être motivé. Et je suis persuadé qu'il y a plein de sportifs de très très haut niveau qui se lèvent, on va dire peut-être un tiers du temps pas motivés, et peut-être voire plus. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Mécaniquement, ils vont s'entraîner parce qu'il faut manger, parce qu'il faut le faire, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, la motivation, pourquoi elle est mise au devant de plein de disciplines, que ce soit le sport ou plein d'autres choses d'ailleurs, tout simplement parce que les personnes ont du mal à passer à l'action. Et ça, c'est que ça soit pour leur business, que ça soit pour leur travail, que ça soit pour plein de choses en fait. Et justement, ce d'attendre que la motivation arrive, c'est un petit peu comme le sportif qui peut compter sur les doigts de la main les bonnes séances. Toi qui fais du sport aussi, tu dois savoir, les très bonnes séances de muscu ou autre, c'est assez rare. Finalement, les très très bonnes, on sait qu'on a fait quelque chose de bien. Et si on devait attendre que celle-là, quelque part, on s'entraînerait pas souvent. Et c'est un petit peu pareil pour la motivation. Il y a des jours où on a vraiment envie de s'entraîner, et il y a des jours où on a moins envie, ou en tout cas, on n'a pas ce désir de s'entraîner. Parce que c'est ça qui est important, c'est que pour tous les pratiquants qui démarrent, sachez une chose, c'est qu'il y a des moments où vous êtes dans votre parcours de sportif, il y a des moments où vous allez vraiment avoir envie de vous entraîner à tel point que dès le matin, au réveil, vous allez y penser pour la séance du soir, etc. Mais il y a des jours où vous allez un peu y penser, et puis arriver au moment de vous entraîner, je sais pas, il se sera passé des choses dans la journée, votre esprit il sera plus vraiment connecté avec ça, et vous aurez moins envie. Donc du coup là, vous allez vous dire, j'ai pas la motivation. En fait, la motivation, faut la laisser de côté, y aller mécaniquement, parce que mécaniquement, justement, la séance parfois se passe très très bien. Et je pense que en attendant toujours la motivation, on se retrouve à pas s'entraîner souvent. Ça c'est ma réponse, en tout cas c'est mon expérience.
Ouais, et puis si on est lidé par la motivation du résultat, notamment en musculation, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut plus y compter, parce que on le sait que c'est une activité où on progresse très lentement, et en fait, les résultats arrivent assez vite au début, dans un sens, on va avoir de bons feedbacks esthétiques, physiques, si on fait les choses bien, évidemment, mais au bout d'un moment, on progresse plus. Je sais que moi, quand je vais m'entraîner, ou n'importe quel pratiquant, par exemple, de musculation qui en fait depuis un certain temps, il sait très bien qu'une fois la séance terminée, il aura pas gagné de muscle. Ça sera infinitésimal, et donc il le verra pas. Et on se rend pas à la salle parce qu'on sait qu'à la fin, on va. Enfin, c'est peut-être en fond sonore un petit peu. On sait que on est dans la progression continue, très légère, à long terme. Mais il n'y a pas ce truc de je vais m'entraîner, je me regarde juste derrière en sachant que j'ai du résultat immédiat, même si c'est le pump, la congestion. Mais bon, enfin, ça c'est un autre sujet.
C'est un bon facteur de motivation pour beaucoup de personnes, hein, d'aller à la salle et de se voir congestionné. Et moi, je recommande aux gens d'en profiter à fond. Si c'est un moteur pour eux. Profitez-en. Après, peut-être que ça, vous passerez à autre chose, mais ça peut permettre aux gens, parce que quand tu t'entraînes, excuse-moi, je t'ai complètement coupé, mais quand tu t'entraînes au début, surtout quand t'as peu de masse musculaire, tu te dis toujours la même chose, c'est ah là là, si je pouvais rester tout le temps congestionné, ça serait génial. Donc du coup, tu te vois au top que quand t'es à la salle. Donc ça peut être un moteur pour les gens d'aller s'entraîner, ça. Excuse-moi, je t'ai coupé.
C'est vrai. Non, mais t'as raison, parce que c'est tout à fait vrai. Je suis pas certain qu'il y ait d'autres activités qui donnent ça.
Après, la congestion, non. Mais je pense que tu vois, par exemple, quand un basketteur, il arrive à mettre un panier de loin, ou je sais pas, j'y connais rien, mais quand il arrive à faire une certaine performance, il doit sécréter certaines substances qui lui font du bien aussi. Donc chacun a sa petite dose de motivation. C'est vrai qu'il doit pas y avoir beaucoup de sports où c'est emmerdant de le pratiquer. Il y a toujours une petite chose à l'intérieur de la pratique qui fait du bien, quoi. Et en général, faut qu'elle soit relativement rare. C'est pour ça que les mecs, ils préfèrent les entraînements du haut du corps et les femmes du bas du corps. Parce que quand les femmes, elles font le bas du corps, elles voient leurs fessiers bien bombés, etc. Ça leur plaît. Et quand les mecs font le haut du corps, ils voient leurs biceps, leurs pecs bien gonflés et ça leur fait plaisir. Alors, c'est primaire comme raisonnement, mais malheureusement, c'est la réalité.
Et quand t'as réussi à mettre toutes ces habitudes en place, que t'as développé ces bonnes pratiques, tu t'es lancé sur YouTube ou en tout cas sur les réseaux à créer du contenu directement. Est-ce que t'as senti que t'en avais besoin, qu'il y avait des gens qui te demandaient beaucoup de conseils et toi, comme t'avais passé un petit peu les caps difficiles de la mise en place d'habitudes sportives et alimentaires, tu t'es dit, ou alors c'était par passion, comment c'est venu?
Bah, ça, c'est assez simple parce que, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, moi, quand je me mets dans quelque chose, la passion est tellement forte que je vais tout relier à ma passion. C'est-à-dire que, quel que soit le temps que je vais avoir à accorder à ça, je vais être à fond. Et au bout d'un moment, quand j'ai réussi à trouver ma méthode, je me suis dit, mais comment c'est possible que j'ai mis autant de temps à trouver un truc qui est finalement pas si compliqué. Et en tout cas en France, personne, mais je dis bien personne, et pourtant j'étais pas le seul, hein, il y avait des forums, il y avait plein de trucs sur la musculation, personne n'était capable de résumer simplement la bonne façon de perdre du gras, de pas trop perdre de muscle, etc. Il y avait toujours des contradictions dans tous les sens. Alors, je veux bien que tout le monde est différent, mais on reste tous des hommes et des femmes, donc on n'est pas si différents non plus. Et je trouvais pas de choses simples et claires. Et ça m'a dit, je me suis dit, bah attends, au lieu de donner des grands conseils à tout le monde, je vais partager mon expérience et je verrai bien ce que ça donne. Et en partageant mon expérience, j'ai vu ce que ça a donné, c'est que beaucoup de gens m'ont posé des questions. Alors, ça a commencé dans mon entourage, parce que c'est sûr que quand tu perds 23 kilos en 3 mois, même ma frangine, elle m'a pas reconnu quand j'ai ouvert la porte de chez elle. Ça crée du questionnement. Et j'avais beaucoup de questions aussi à la salle, et je me suis dit, écoute, je vais commencer à faire un petit blog, quoi. Alors d'abord, j'en ai parlé sur les forums, j'ai vu que c'était un petit peu trop débutant, les forums. Les gars, tu sens qu'ils connaissent pas grand chose. Enfin, j'ai rien contre les forums, mais tu sens que les gars, il y a toujours de la remise en question, etc. Il y a très peu de passage à l'action, malheureusement. Et donc, du coup, je voulais me sentir chez moi aussi parce que je me faisais un petit peu attaquer parfois sur les forums, et c'est ce que je comprends, hein. C'est les gens, ils sont là pour débattre. J'ai décidé d'ouvrir mon espace à moi où je pourrais m'exprimer librement, où je serais pas banni ou autre, même si j'ai jamais été banni d'aucun forum. Je voulais pouvoir dire le fond de ma pensée. Et ben voilà, ça a démarré comme ça. Et j'avais toujours un job à cette époque-là en parallèle. Et puis un beau jour, j'ai décidé de d'écrire quelque chose de complet, de concis pour l'époque en tout cas, et de le proposer à la vente. Et ça a marché. Donc du coup, ça a commencé à me créer un revenu. J'ai dû me monter en société, etc. Et puis un jour, j'ai dit écoute, c'est le moment ou jamais de se mettre à 100% à faire ça, parce que sinon tu vas le regretter quand tu auras 50, 60 ans, quoi, de pas avoir vécu de ta passion. Donc je l'ai fait. Et puis voilà, maintenant ça fait des années que je fais ça.
Et comment t'en es venu à passer sur un format de type podcast que j'écoute depuis plusieurs mois, ton podcast qui est La Pause Fitness?
Ouais.
Par ailleurs, j'y pense, je te remercie pour la petite note que t'as laissée sur mon podcast, sur l'évaluation sur iTunes.
Ouais.
Concernant, t'as fait une petite référence à l'épisode 2 avec Julien Volant, que j'invite évidemment tout le monde à écouter, qui est long mais extrêmement intéressant. Mmh. Donc, excuse-moi, je me perds un petit peu, mais pour revenir à la question initiale, c'est quelle idée derrière le fait de passer sur du podcast? T'en avais marre de montrer grossièrement ta tête sur YouTube, ou c'était qu'est-ce qui t'a l'idée à ce moment-là?
Ben, au début, quand j'ai travaillé sur, déjà quand j'ai démarré, il y avait très peu de podcasts. Donc, pour moi, c'était pas le support apprécié des autres. Je me suis rapidement mis à la vidéo. Pourquoi ? Parce que la vidéo et la photo, parce qu'on a un sport qui est très visuel. Donc, au lieu de faire beaucoup de blabla, mieux vaut montrer des résultats, comme on dit. Donc, j'ai montré beaucoup de résultats en vidéo, donc le physique, etc. Enfin bon, bref, ce que je mangeais et tout. Mais une fois que l'audience me connaissait, je pouvais me permettre de basculer sur un format non visuel, puisque les gens, ils savent qui parle. Et puis je continue à poster encore des photos sur les réseaux pour que les gens puissent voir ma forme, parce que je pense que c'est important de leur montrer que je reste en forme, parce que ça les motive eux aussi. Mais j'ai voulu passer sur le podcast parce que je savais que le podcast était plus intime, c'est-à-dire qu'avoir quelqu'un dans ses oreilles et de faire quelque chose d'autre, donc l'avoir vraiment dans son quotidien et pas uniquement assis sur son canapé avec le téléphone devant les yeux ou devant la télé ou devant son PC, le podcast est plus intime. Déjà, moi, j'aime beaucoup écouter des audios, donc je me suis dit, il y a forcément des gens qui aiment aussi écouter des audios. Et puis moi, ça me donnait aussi l'opportunité d'être plus relax, en fait, parce que quand tu dois te soucier que de ta voix et plus de ton image et plus de l'éclairage et plus de toutes ces choses-là, ben, tu peux être beaucoup plus productif, hein, tout simplement. Hein. T'es plus concentré aussi. Et voilà. Et puis, quelque part, quand j'ai démarré le podcast, j'ai trouvé que YouTube, par exemple, commençait à devenir un petit peu saturé de personnes dans le monde du fitness. Et je pense que j'ai pris cette décision aussi parce que j'avais beaucoup de retours de mes abonnés qui me disaient « Un tel dit ça, machin, je comprends pas pourquoi t'as pas plus d'abonnés, tu dis des choses plus… » Enfin bon, bref, ils disaient certaines choses et je me suis dit… Ben, pourquoi pas faire passer sur une autre plateforme quelque chose un petit peu de plus vierge, avec moins de personnes, etc. Donc les gens auront plus de facilité peut-être à me retrouver aussi, et aussi sortir mes abonnés de YouTube, même si j'y suis encore aujourd'hui, mais de les sortir un petit peu, de leur montrer qu'il y a autre chose, parce que malheureusement à la longue, si on regarde toujours des contenus parce que faut dire ce qui est, hein, dans le fitness, il y a à boire et à manger, enfin en tout cas dans le fitness francophone. Et si on les laisse tout le temps devant YouTube, eh ben ils vont se créer des opinions différentes à chaque nouvelle vidéo et ils vont stagner, pas avancer. Et en fait, moi je trouve que le podcast, ça fait, je sais pas, comme un fil conducteur, tu vois, c'est comme une histoire, c'est comme une série que tu regarderais à la télé avec des épisodes. C'est toujours le même fond de pensée, mais avec des évolutions, des rebondissements. Bon, là, le podcast, il n'y a pas de rebondissement, mais j'essaye d'apporter toujours sur les mêmes thématiques, sur la même façon de penser, des nouveautés.
Cette sensation que sur le podcast, tu sais, c'est un peu comme s'il y avait les vrais motivés, disons, ou alors les vraies personnes qui veulent avoir du contenu intéressant et beaucoup moins de touristes. Chose qu'on peut retrouver peut-être un peu plus sur YouTube. Plus de touristes, de gens qui n'ont, comment dire, rien à voir avec la choucroute, qui tombent sur tes vidéos, qui vont commenter, qui vont donner un avis, mais alors que bon, elles ont rien à foutre là.
Bah, c'est important pour le référencement, ces gens-là. Moi, ces gens-là, en fait, je les aime parce que grâce à eux, mes vidéos sont mieux référencées. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il faut faire attention parce que, comme tu dis, les vrais, etc., dont tu fais partie, dont je fais partie, si on parle comme ça, c'est parce que nous, on est capable d'écouter du podcast et de pas être stimulé par des muscles, etc., parce que on est passé pas à autre chose, mais enfin voilà quoi, on n'est pas obligé de voir un gars faire une séance pec pour l'entendre parler de pec, quoi. On peut juste l'écouter, ça marche aussi. Et mais il y a des personnes qui sont encore dans cet état d'esprit là malheureusement, et s'ils tombent pas de temps en temps sur nos podcasts, c'est la raison pour laquelle je les laisse sur YouTube encore. Ils pourront jamais devenir justement ces vrais de vrais, comme tu dis.
Alors, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est exactement pour les mêmes raisons que j'ai décidé il y a quelques mois de les mettre sur YouTube, les miens aussi, parce que en fait il y a quand même beaucoup de personnes, c'est ça, qui veulent de vraies informations mais qui ne connaissent pas nécessairement la plateforme, le format podcast, qui soit n'en ont jamais entendu parler. Soit ne connaissent pas vraiment, ils pensent que c'est un peu la même chose que sur YouTube où il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et pour le coup, c'est vrai que d'avoir une accroche comme ça sur YouTube permet de leur montrer que ah ben tiens, je peux aller écouter ça sur Spotify, sur iTunes, et ensuite hop, de fil en aiguille, ils découvrent d'autres choses, des recommandations, et puis ils vont voir un peu dans les podcasts similaires, et puis là ça y est, un nouveau monde s'ouvre à eux. J'ai l'impression que ça se passe un petit peu comme ça aussi.
En fait, les gens qui écoutent du podcast sur YouTube un petit peu par hasard, donc là, par exemple, là, si toi, là, qui nous écoutes, t'es sur YouTube, dis-toi une chose, c'est que tu te mets des bâtons dans les roues parce que toutes les plateformes de podcast qui existent aujourd'hui sont beaucoup plus simples que YouTube pour les écouter. C'est-à-dire que tu peux mieux naviguer, mieux retrouver les épisodes. Tout est plus facile ailleurs que sur YouTube pour écouter du podcast. Donc, c'est aussi ça qu'il faut dire aux gens. C'est que YouTube, c'est vachement contraignant quand tu veux écouter de l'audio parce que tu peux pas quitter forcément l'application sauf si tu as un abonnement premium. Le podcast, il n'y a pas tout ça. Le podcast, c'est l'avantage, c'est que tu peux vraiment, comme je disais tout à l'heure, tu le mets dans ta bagnole, tu le mets en faisant la cuisine, tu le mets, bah, il y en a, il nous écoute, il faut le savoir, sur les chiottes. Enfin, c'est beaucoup plus mobile comme médium, on va dire, quoi. Et.
J'espère que YouTube va pas nous entendre, sinon il va nous pénaliser. Il va pas vouloir qu'on sorte les,
bon, mais, YouTube, les spectateurs. YouTube, de toute façon, ils sont, je sais pas s'ils sont vraiment pour le format audio. Hein. Déjà, quand on met des podcasts, je pense qu'il doit détecter que l'image est un peu fixe, donc il doit un peu pénaliser ça. Et puis c'est du contenu long en général, donc les gens n'aiment pas trop. Le podcast n'est pas fait pour YouTube. En fait, c'est comme tu disais, c'est juste pour montrer qu'on existe.
C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que t'as des podcasts justement que tu recommandes, qui te motivent, te bercent dans ton style de vie ou dans le sport?
Aucun dans le domaine de la nutrition et de l'entraînement, parce qu'il y en a pas en français, en tout cas, qui moi me parle, que je trouve intéressant. Il y en a peut-être, mais je les connais pas. Mais en tout cas, j'avais fait des recherches, j'avais pas trouvé à l'époque. Après, faut savoir une chose, comme je te disais, je t'en ai pas parlé, mais moi, mes recherches maintenant, c'est quasiment que de la recherche scientifique. Donc, tu vois, écouter quelqu'un qui va me parler de nutrition, de manière un petit peu, je sais pas, moi, plus simple, ça va pas me brancher. J'ai besoin maintenant d'avoir.
Tu vas chercher les informations à la source.
Ouais, d'avoir des trucs. En fait, j'ai besoin que ça me, d'apprendre des choses, quoi. Et malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, hein, quand ça fait des années et des années que tu fais ça, tu commences un petit peu à maîtriser ton sujet. Donc, c'est de plus en plus rare de trouver des personnes qui t'apprennent des choses, quoi. Et donc, la recherche scientifique, à moins qu'il y ait un podcast de chercheurs, et ça serait cool. Mais en français, je pense que ça n'arrivera jamais. Sinon, c'est beaucoup des podcasts. Attends, je vais l'ouvrir en même temps qu'on parle là. Si ça intéresse les gens, après, je pense qu'ils en auront rien à foutre, mais.
Moi, je te dis, ça m'intéresse déjà.
Alors, je suis passionné de bagnole, donc j'ai écouté un podcast canadien qui s'appelle le podcast de Char. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? J'ai un gars qui est super et qui est français, Stan Leloup, Marketing Mania.
Ouais, que excellent. Tu dois connaître. C'est un des premiers que j'ai découvert avec son podcast Nomade Digital. C'est grâce à ça que je suis tombé sur le podcast. Ouais.
C'est celui-là que j'écoutais et maintenant, j'avoue que ça fait quelque temps que je les ai pas écoutés les derniers là. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup ces podcasts qui faisaient Marketing Mania parce que c'est Nomade Digital pardon, parce que c'était vraiment sur le style de vie etc. Et puis je trouvais les interactions vraiment cool. J'ai le Rendez-vous Tech, donc ça c'est français que tu dois connaître aussi je pense.
Je connais, ouais. J'ai écouté 2-3 fois, j'ai moins accroché.
Bah là, en fait, moi, c'est pour rester au fait un petit peu de la technologie et tout. J'écoute périodiquement Dans la tête d'un coureur. Donc, c'est plus sur la course à pied. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, attends. Alors, il y a le podcast Nutrimuscle, quand même, qui est sorti il n'y a pas longtemps.
Bah, j'allais en parler. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps.
Je l'écoute parce qu'il y a Gundil. Hein. Il n'y aurait pas Gundil, je ne l'écouterais pas. Je suis honnête parce que c'est une des personnes qui m'a le plus éclairé sur la muscu à mes débuts. Aujourd'hui, c'est différent, mais à mes débuts, c'est une personne qui m'a beaucoup appris. Et donc du coup, j'écoute parce que je sais qu'il passe beaucoup de temps lui aussi à faire des recherches et il m'apprend certaines choses. Et après,
c'est vrai que dès qu'il commence à ouvrir sa bouche, c'est toujours hyper intéressant. On en apprend à chaque fois, j'ai l'impression.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que au tout début. Ouais, c'était toujours intéressant. Aujourd'hui, ça l'est toujours pour 99% des gens. Mais la différence avec maintenant, c'est qu'aujourd'hui, je commence à avoir des sujets où je suis pas d'accord avec lui. Et là, c'est la première fois, je pense, dans un podcast que je le dis. Parce que c'est quand même difficile quand c'est quelqu'un un petit peu qui t'a, entre guillemets, éduqué. À distance, hein, par ses bouquins. Bon, je l'ai eu régulièrement au téléphone. Et de temps en temps, on fait des podcasts ensemble. Aujourd'hui, il y a quelques sujets où je tombe pas forcément d'accord avec lui. Et ça, je pense que c'est, enfin voilà, c'est, je pense que c'est justement parce que l'apprentissage et tout ça. Mais c'est pas pour autant que j'arrête de l'écouter. Au contraire. Parce que justement, c'est toujours important de d'écouter des gens avec qui ont des discours où on n'est pas toujours d'accord, parce que ça nous permet de nous remettre en question. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai ReLife, le podcast qui s'appelle ReLife. Alors, je me rappelle plus des intervenants, mais c'est pareil, c'est un podcast sur un peu la tech, mais aussi l'amélioration du quotidien, etc. Et puis c'est tout. Hein. Et non, un truc sur les montres aussi, parce que j'aime beaucoup les montres. Et un podcast qui s'appelle, il est où? Il est Répétition Minute. Voilà. Bon, après, voilà, je t'ai partagé mes podcasts un petit peu détente plus que apprentissage, hein, parce que c'est, en fait, c'est des sujets qui me plaisent, mais qui m'apportent rien dans mon quotidien professionnel.
Bah, tu vois, on a parlé quand même motivation jusque là, on a parlé de la mise en place d'habitudes, plus ou moins les podcasts aussi qui participent à en apprendre, le fait de vouloir s'améliorer, aller chercher des informations de qualité. Est-ce que tu penses, question un petit peu large, un petit peu à la con, hein, tu me diras si justement ça vaut le coup de le voir comme ça, mais est-ce que tu penses qu'il y a un lifestyle du sportif? Et si oui, comment tu le définirais dans tout cet univers là?
Un lifestyle, c'est-à-dire un style de vie au quotidien qui...
Ouais, le mode, ouais, c'est ça, ouais, le mode de vie que recherchent certaines personnes, ou même, tu sais, ce qu'on veut te présenter quand certains influenceurs, ils ont un lifestyle. Est-ce que ça représente quelque chose?
Moi, je pense pas que ça représente grand-chose. En fait, le style de vie du sportif, il est pas, on prend pas, comment dire, c'est pas un pack complet quand on décide de faire du sport avec le style de vie. Je pense que le style de vie vient s'articuler et se greffer par rapport à la pratique sportive. On va faire des liens assez faciles. Une personne qui fait du sport assez intense va se rendre compte qu'elle dort mieux et plus longtemps. En tout cas, chez 90% des personnes, ça se passe comme ça. Certaines, non. Mais en règle générale, on dort mieux quand on fait du sport. Et tout le monde a vérifié que un jour à faire du sport, comparé à un dimanche où on reste sous la couette et on en sort pas, eh ben, on dort mieux le jour où on fait du sport. Donc, le sommeil est impacté. Donc, ça fait partie du style de vie. Ensuite, le sport, eh ben, on se rend compte que notre appétit est modifié. On a plus faim, on a moins faim. On a aussi un besoin de performer. Donc du coup, on se rend compte que quand on mange tel aliment, ça va mieux que quand on mange cela. Donc en fait, le style de vie, c'est par rapport, quand on est sportif, c'est le sport qui va le dicter, mais au fur et à mesure. C'est pas un pack complet. Mais encore une fois, ça se fait naturellement. Après, il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir le style de vie des stars, ou pas forcément des stars, mais tu sais, des gros entrepreneurs, des gens qui réussissent. Et donc, il voit, bah, tiens, il médite, bon, ok, bon, il se lève à telle heure, ok, bon, il fait du sport, d'accord. Ah, il mange ça, bon, il suit ce régime-là, il fait le jeûne, ok, d'accord. Et ils vont prendre ça, et sauf que, en fait, ils ont rien de tout, enfin, ça marchera pas parce qu'ils vont faire tout ça, mais ils ont pas le cœur du machin qui est leur boulot ou leur business ou quoi. Ils essayent juste d'appliquer leur style de vie. Ce qui sert à rien, en fait.
Ouais, ce qui est montré à l'instant T ne représente absolument pas la globalité, l'ensemble d'une journée aussi.
Tu prends un exemple tout con comme Elon Musk. J'ai lu son bouquin, je l'ai adoré. Tu regardes à la base, mais c'était anarchique. Il dormait à son bureau. Enfin, il bouffait, je crois, ouais, il y a des moments où il mangeait que des... Je sais plus ce que c'était, mais genre de fast-food de chez eux, là. Il se nourrissait que de ça. Donc, le style de vie. Et puis, dans l'introduction, il dit qu'il suit un régime sans glucides ou je sais plus trop quoi. Mais ça, c'est aujourd'hui. Mais avant, quand il a démarré, bah, il bouffait ce qu'il y avait, il dormait là où il pouvait, et parfois il dormait même pas. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je dirais aux gens, inspirez-vous du style de vie alors ceux qui veulent réussir dans les affaires et tout, hein, je parle pas dans le sport, hein. Inspirez-vous du style de vie de la personne à ses débuts. Parce qu'en fait, elle mettait 20 heures sur 24 à bosser et à penser à son business. C'est pas sa méditation et tout ça qui l'a fait progresser. C'est maintenant, elle fait de la méditation et du sport pour pas trop stresser parce qu'elle a un business énorme, c'est tout.
Je me suis noté quelques petites questions un peu plus précises ou techniques. Si ça peut aider les auditeurs, je sais pas, hein. De toute façon, ça se trouve, tu vas me dire toi-même que c'est pas du tout ce genre de questions qui va les aider. Est-ce que, déjà, dans un premier temps, si on veut adopter cette espèce de, on va prendre ça comme ça, si on va adopter cette espèce de lifestyle du sportif, ou en tout cas commencer à en créer de bonnes habitudes, est-ce que tu penses que C'est plus facile de s'entraîner le matin ou le soir pour débuter. Mais si on prend pas en compte l'emploi du temps de travail d'une personne, hein, admettons, là on est actuellement en confinement, donc tout le monde est censé avoir du temps, ou presque tout le monde, évidemment.
Ouais.
Est-ce que la science, enfin toi, de ce que t'aurais retrouvé dans des sources d'information, est-ce que la science dirait qu'il est mieux, il est plus confortable de s'entraîner le matin ou le soir?
Moi, je dirais en fin de journée, donc plutôt vers entre 16 et 18 heures. On a un deuxième pic d'éveil. Le premier, il est dans la matinée. Le deuxième, il est plutôt dans l'après-midi. On est sorti de la phase de digestion où on a un peu éclaté après le repas du midi. Donc, moi, par expérience et en regardant un petit peu la moyenne des gens, ils vont s'entraîner quand ils en ont envie. Et l'heure de pointe dans la salle de muscu, c'est 17-18 heures. Donc, la meilleure façon de s'y mettre, certainement, c'est d'y aller à ces horaires-là, même s'il y a du monde, tant pis. Mais en tout cas, c'est un moment où on aura le plus envie d'y aller. Après, s'entraîner le matin, ça peut être une motivation pour d'autres personnes. Mais moi, je pense que c'est quand même plus intéressant à cette heure-ci de la journée, parce que ça permet quand même d'utiliser un petit peu tout ce qu'on a pu bouffer dans la journée, de nettoyer un peu son stress de la journée aussi. Et de créer ce que j'appelle moi un sas de décompression entre le monde professionnel et le monde personnel, si on y va après le travail ou après les études. Donc ça me semble logique. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font le matin de bonne heure, parce que quand ils le font pas le matin de bonne heure, le soir ils ont plus envie. Donc c'est voilà. Mais pour moi, l'idéal, de toute façon, mon idéal n'est pas, on va dire, c'est pas un point de vue comme ça isolé, puisque la réalité montre que mon idéal serait plutôt le même que beaucoup de personnes.
Oui, je comprends. Et si je me souviens bien, je crois que j'avais vu à un moment donné que le corps était plus chaud, vraiment pour vulgariser, la température corporelle était un petit peu plus élevée en fin de journée, ce qui aidait à déjà avoir un échauffement plus rapide, à être plus vite dans la sensation, plus vite dans la concentration, comparativement le matin où la température corporelle est plus basse et qui déjà il faut prendre un peu plus de temps pour s'échauffer. Alors ça, c'est vraiment des considérations techniques un peu trop détaillées pour celui qui n'a pas commencé.
Bah, disons que le débutant, il sentira pas trop, mais le sportif comme toi ou moi, on va le ressentir tout de suite. Si nous, on nous décale d'une heure ou deux heures notre entraînement, on va le ressentir. Là, le changement d'heure, moi, je l'ai ressenti tout de suite. J'ai continué à m'entraîner à la même heure alors qu'on avait changé d'heure et j'ai ressenti en fait mais qu'est-ce qui se passe, et puis après je me suis dit bah oui, on a changé d'heure. Mais nous on le ressent, mais un débutant le sentira un petit peu moins. Et après, quand tu parles de température, c'est en fait oui, c'est ces phases au niveau du métabolisme, hein. Moi j'en avais fait une grosse formation justement, et que je l'offrais aux gens d'ailleurs, elle est toujours gratuite pour les gens qui s'intéressent. D'ailleurs, si ça intéresse des gens, je te filerai le lien. C'était pour...
Ouais, tu me donneras le lien, je le mettrai dans les
notes. Ouais, elle est gratuite, ça dure à peu près 50 minutes, où justement, j'explique aux gens comment gérer leur pic de productivité, que ce soit pour la créativité, le travail et tout, mais aussi le sport. Et j'explique qu'il y a plusieurs pics dans la journée, et c'est lié en partie, justement, ces pics à l'activité métabolique, et aussi à la température, etc. Et à 15h, on va dire jusqu'à 15h, entre midi et 15h, on est plutôt frileux, on a la tête un peu enfarinée et tout, bah parce que justement, c'est post-digestion, mais aussi physiologiquement, c'est un moment de la journée où dans nos rythmes, nos biorhythmes, on est ralenti, quoi, pour dire les choses simplement.
Et est-ce que tu penses qu'il est intéressant de faire des pauses d'entraînement, c'est-à-dire lorsque tu pars en vacances, de lâcher complètement, admettons, tu pars une semaine, ou alors t'as envie de te prendre une semaine de repos, travail, hein, je parle, hein, repos de la vie de tous les jours. Est-ce que c'est intéressant de continuer à s'entraîner, pour toi il le faut même, ou c'est bien de complètement arrêter? Et si jamais tu pars en vacances et que il faut que t'as envie de continuer à t'entraîner, comment tu peux le gérer, ça?
Après, si on parle de moi personnellement, moi quand je pars en vacances, déjà c'est pas souvent. Et quand je pars en vacances, oui, j'arrête complètement l'entraînement. Pourquoi? Parce que toute l'année, je m'entraîne. Toute l'année, je m'entraîne, et parfois 6, voire 7 fois par semaine. Il y a des fois où je prends même pas de repos, ça m'arrive. Donc, je fais la part des choses. Une personne comme moi, quand elle part en vacances, elle peut faire 100% repos sans problème. Une personne qui s'entraîne 2-3 fois par semaine et qui parfois a des petites absences de quelques jours, quand elle part en vacances, si elle a l'opportunité de faire un petit quelque chose, c'est pas plus mal. Donc après, comment elle fait? Ben, quand elle part en vacances, elle prend son téléphone et puis elle regarde sur Google Maps ou quoi les parcours de santé autour. Ou alors elle regarde si, par exemple, si elle est abonnée dans les grandes salles ou qui sont nationales, si elle peut avoir accès à une salle pas trop loin. Si elle va dans un hôtel, en règle générale, il y a un petit peu de trucs. Sinon, elle s'achète un petit filet d'élastique sur Amazon, là, avec des poignées. Et puis, n'importe où elle se trouvera, elle pourra faire ses biceps, ses épaules. Elle pourra faire un peu de tout, quoi. Mais en fait, ce qui est contradictoire, c'est que logiquement, une personne qui va s'entraîner en vacances, c'est une personne qui est accro au sport, donc qui a peu de chances de faire que 3 séances de sport par semaine. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la personne qui va vouloir faire du sport en vacances, c'est souvent une personne qui est à fond dans le sport. Donc elle a besoin de se reposer.
Ouais, c'est intéressant.
Non, mais c'est vrai, hein, moi, en règle générale, je vois mes amis qui sont pas réguliers dans le sport, ils pensent pas à ça quand ils partent en vacances. Moi, toutes les questions que je reçois, Théo, comment je fais pour m'entraîner en vacances? C'est des gens qui sont déjà au taquet, au sport, toute l'année. Donc, je leur dis, mais t'as pas envisagé de pas t'entraîner? Alors, c'est différent si tu pars faire un road trip de 6 mois ou si tu pars 15 jours. 15 jours, ça pose pas de problème. À partir de 3 semaines, là, tu peux commencer à dire, bon, 3 semaines, on va faire un petit quelque chose, quoi.
Ouais, de toute façon, là, on le voit, ça fait plus de trois, ouais, on est dans la 3e semaine, peut-être, du confinement. Enfin, en France, ici, à Montréal, il n'y a pas encore de confinement. Par contre, toutes les salles de sport sont fermées. Ouais. Mais, tous les pratiquants qui ne s'entraînaient pas auparavant, chez eux, ils commencent tranquillement à paniquer et à essayer de trouver des solutions. Ce qui m'amène à te demander, sur la questionnement du home gym, ou, de la salle de sport classique, qu'est-ce qui est le plus adéquat pour démarrer lorsqu'on est débutant? Est-ce que tu penses que pas besoin de passer par chez soi pour s'entraîner, mais il faut directement aller en salle de sport pour vraiment s'ancrer directement là-dedans, ou un petit palier de décompression en faisant d'abord quelques abdos, en achetant une petite paire d'haltères pour voir si déjà on a un intérêt, et ensuite on peut aller s'inscrire? C'est quoi le parcours que tu recommanderais, toi?
Non, moi je pense qu'il faut jeter à l'eau. De toute façon, si on a envie de se transformer physiquement, moi, ma recommandation, c'est de faire au moins 1 an en salle de sport. Si possible, hein, il y a des gens qui sont tellement isolés, il n'y a pas de salle de sport à côté. Mais si possible, d'aller en salle de sport, vous gagnerez sur tous les plans. Parce que si vous investissez dans du matos, ça va vous coûter plus cher qu'un an de muscu. Les salles de sport aujourd'hui, elles sont tellement peu chères. On a du 19 euros ici par mois. On n'aura jamais, avec 19 euros par mois, de quoi s'équiper correctement à la maison en 1 an. C'est pas possible. Donc, de faire un passage par l'entraînement en salle, ça va permettre déjà de pouvoir voir si, comme tu dis, on est réceptif à la pratique et c'est vraiment ça qu'on a envie de faire, mais aussi d'avoir d'autres personnes qui s'entraînent, de pouvoir faire des mouvements plus correctement parce qu'on sera un peu plus encadré. Je dis pas qu'on est parfaitement encadré en salle, mais un peu plus encadré qu'à la maison. Et justement de se forger un petit peu des connaissances nerveuses, on va dire, des schémas moteurs, etc., sur tous les mouvements, de se sentir plus en confiance, et après, au bout d'un an, pourquoi pas passer à la maison et d'investir parce qu'on est motivé, etc. Après, il faut savoir une chose, là, pour les débutants, l'entraînement à la maison et l'entraînement en salle est complètement différent. Il y a une période, on m'aurait dit, tu vas t'entraîner à la maison, j'aurais dit, mais quelle horreur, je pourrais jamais, parce que j'étais vachement relié à la présence des autres en salle. Et c'était peut-être un facteur de motivation pour moi. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, j'aime beaucoup m'entraîner à la maison, alors qu'avant, c'était pas du... Alors, je dis pas, hein, je retournerai certainement en salle sans problème, mais moi, mon objectif à terme, c'est d'avoir mon home gym super complet à la maison, dans une pièce séparée, etc. Là, le défi que je m'étais lancé, c'était de me faire mon home gym dans un salon. Et c'est-à-dire que dans mon salon, j'ai mon canapé, j'ai ma table basse, j'ai tout. Et il faut que j'ai quelque chose où je puisse m'entraîner quand même sérieusement, parce que j'ai quelques années de pratique maintenant, mais qui tiennent dans un espace assez restreint. Ça, j'aurais été incapable de faire ça, parce que j'aurais pas trouvé la motivation à l'époque de virer la table basse et de mettre mon banc, etc. Maintenant, je le fais au quotidien, ça me pose aucun problème. Et je suis parfois plus intense que ce que je pouvais l'être en salle.
Ouais, comme tu le dis, c'est vrai que t'as plusieurs années d'expérience, t'as vraiment ce retour-là et cette envie. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire une analogie entre quelqu'un qui travaille chez lui, qui fait du télétravail ou qui est freelance. Mm-hmm. Moi, de ce que j'ai souvent entendu, c'est que c'était intéressant, enfin c'était intéressant, même primordial, d'avoir un espace vraiment réservé pour le travail et ne pas mélanger, on va dire, des espaces qui sont à la fois pour la détente, à la fois pour du travail, parce que ton cerveau vient à faire des mélanges et t'arrives pas, finalement, t'arrives ni à te détendre à l'endroit où tu es et ou ni à travailler parce que t'es toujours entre les deux. Et ça pourrait me faire penser à cette idée que si tu vas en salle de sport, t'externalises complètement l'endroit où tu vas faire ton activité. Et c'est plus facile dans un sens, parce que quand t'es chez toi, t'es chez toi. Enfin, là, je parle peut-être pour les débutants,
ouais, ouais. Hein,
enfin pour les débutants ou pour ceux qui veulent se lancer, qui veulent adopter ces bonnes habitudes, ce lifestyle, si on peut dire. Plutôt que commencer chez soi, ça peut parfois être difficile parce que les haltères, elles sont probablement dans un endroit où il y a peut-être la télé qui est pas loin, où il y a d'autres sources de divertissement à côté.
Mais quand les habitudes sont pas prises, autant aller en salle. Parce que justement, comme tu dis, la salle va, ça crée un nouvel environnement et l'environnement, on va l'associer à l'entraînement, etc. Donc, on va savoir quand je suis à la maison, je me détends, quand je suis au boulot, je bosse et quand je suis à la salle, je m'entraîne. Donc, les gens, mentalement, ils peuvent distinguer tous les états d'esprit différents grâce à l'environnement. Après, là, par exemple, on est tous en confinement. Comment tu fais? Parce que
t'as
ton salon.
Nickel, hein.
Moi, je sais que j'ai mis en place des stratégies, mais depuis longtemps, parce que je travaille à la maison. L'idéal, ce serait d'avoir une grande maison avec plusieurs pièces. Mais si on est en appartement ou dans un studio ou qu'on habite une région qui coûte très cher, donc on a peu de mètres carrés, moi, j'avais donné des stratégies. C'est que tu changes, premier point, déjà, tu changes l'éclairage. C'est-à-dire que un petit investissement, pas trop cher, mais enfin, c'est pas donné non plus, mais c'est pas trop cher non plus. C'est des ampoules que tu peux changer de couleur. Moi, j'ai plein d'ampoules à la maison. Quand je bosse, elles sont en lumière assez vive. Là, actuellement, elles sont en lumière assez vive. Et le moment de se détendre le soir, c'est des lumières plus chaudes. Donc déjà, ça modifie la même pièce. Ça n'est plus le même environnement grâce à ça. Deuxième chose, les odeurs.
Ah, c'est une bonne astuce. Hein.
Alors, même quand je m'entraîne, je rajoute même une lumière supplémentaire au plafond. Tu vois, en fait, il faut créer des environnements différents dans la même pièce. J'ai un bureau qui est quand même bien isolé, mais qui est quand même dans le salon. Il y a les odeurs aussi. Pendant une période, ce que je faisais, c'était que je mettais des huiles essentielles, menthe poivrée et tout pour le boulot, et de l'ylang, etc., ylang-ylang, etc., pour me détendre, pour créer des ambiances, des environnements différents par l'odeur. Donc, si t'additionnes lumière, odeur, déjà, tu crées, en fait, tu joues sur d'autres sens que simplement changer d'environnement, de te déplacer dans un autre endroit. Et ça fonctionne. Mais, encore une fois, toutes ces choses-là, c'est beaucoup lié à la procrastination. Pour le débutant, par contre, il est beaucoup trop faible, que ça soit mentalement, etc., pour réussir à faire ce que je suis en train de dire. C'est pas possible. Enfin, peut-être qu'il y en a qui vont arriver, mais c'est très compliqué, très 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 compliqué, parce qu'il sait pas ce qu'il fait réellement, il est un peu livré à lui-même, il sait pas s'il fait une connerie ou s'il fait quelque chose de bien. Donc le mieux, c'est d'aller en salle de sport. Et là, actuellement, s'il peut pas, ben, il fait ce qu'il peut à la maison, des pompes, des abdos, des tractions s'il a une barre. Bon, voilà, il sauve les meubles, comme on dit. Mais
ouais, c'est ça.
Après, s'il veut vraiment tenir, il faut passer du temps en salle, quoi.
Ok, bon, je pense que c'est plutôt clair là-dessus. Je voulais aborder rapidement. Alors, évidemment, c'est un sujet extrêmement large, la nutrition.
Ouais.
Il y a une espèce de dualité quand même, parce que les gens savent à peu près quoi faire et puis ça reste simple dans l'explication pour être en bonne santé et ne pas être en surpoids. C'est faites de l'activité, manger équilibré, ne mangez pas plus que vos besoins, manger fruits, légumes, éviter les saloperies, les sucres, etc. Mais en même temps, dans la mise en place et dans la conception du repas, des macronutriments, ça devient plus compliqué. Et puis voilà, donc c'est extrêmement simple en théorie, et puis en pratique, c'est complètement autre chose. Et puis il y a tout le côté psychologique aussi, où c'est difficile de suivre un régime, etc. C'est quoi les bases de manger équilibré? Si déjà on peut essayer de donner les grandes lignes de ça pour quelqu'un qui tombe sur ce podcast, qui est toujours là avec nous, et qui ne connaît pas réellement ce que c'est que le manger équilibré, ceux qui partent de zéro, admettons, comment on pourrait les aiguiller?
Déjà, la première chose, c'est de se dire que les aliments transformés, quels qu'ils soient, sont pas bons. Donc déjà, c'est très simple, ça va écrémer énormément leur liste de courses. qu'est-ce qu'un aliment transformé? C'est un aliment où quand on regarde l'étiquette, bah, il n'y a pas un ingrédient, il y en a plein. Et à partir de là, déjà, on peut commencer à supprimer. Donc, je vais dire une bêtise, mais quand tu achètes, si toi qui m'écoutes là, que tu veux faire tes courses, si tu achètes un paquet de lentilles sèches, des lentilles sèches, ou alors une boîte de lentilles, tu verras que dans la boîte, il y a du sel, etc. Et dans l'autre, il y a que des lentilles. Eh ben, c'est ça, un produit transformé. Alors, les lentilles, c'est peu transformé, parce qu'ils ont juste ajouté des choses. Mais après, ça va être pareil pour le jambon, ça va être pareil pour tout un tas de choses. Donc déjà, première chose, ta prochaine liste de courses, si tu veux la faire correctement, mets que des aliments non transformés. Ça va te prendre du temps, parce que tu vas devoir chercher ce que c'est, des aliments non transformés. Mais commence par ça. Et je te dirais pas de manger plus de protéines, plus de glucides, plus de machin. Non, non. Déjà, commence par ça. C'est la première étape pour te rendre compte de ce qu'est la vraie nourriture. Et crois-moi, il y a pas mal de choses qui existent, patates douces, il y a plein de choses que tu connais même pas et qui existent et qui sont vraiment, vraiment, vraiment sympas à manger et à cuisiner. Deuxième chose, j'ai fait la transition là, cuisiner. Parce que on ne peut pas manger sainement si on ne sait pas cuisiner. Et quand je dis cuisiner, c'est pas faire un super plat de 4 étoiles, hein. C'est être capable de se faire ne serait-ce que des œufs au plat, d'être capable de faire un riz avec le bon timing, d'être capable, je sais pas, de faire un gratin sans mettre de la béchamel, etc. C'est des petits réflexes comme ça, mais d'être capable de les faire. Donc un minimum de.
Il y en a beaucoup qui pensent que c'est long et que c'est compliqué de faire la cuisine.
Ben non. Ben après, les gens quand ils me disent j'ai pas le temps, quand je les vois manger des pâtes aux gruyères, ils me disent j'ai pas le temps. Je leur dis mais attends, le riz, c'est pareil. Ou alors tu te serais fait cuire des lentilles ou autre, c'est pareil. Je veux dire, c'est de l'eau bouillante. En plus, enfin voilà quoi. Bon, les lentilles, c'est un mauvais exemple, ça dure plus longtemps à cuire, mais on va dire du riz. Ah, c'est quasiment le même temps de cuisson, quoi. Tu vas être sur 10 minutes, les pâtes, ça va être quoi, 7-8 minutes. C'est pareil, quoi. Donc déjà, elle pourrait changer la nature de ces aliments dans le même temps de préparation. Après, pendant que du riz ça cuit, bah tu peux faire cuire, je sais pas, un morceau de poulet, un morceau de poisson sur une poêle à côté. Et puis la personne aime pas trop les légumes, bah elle commence par se faire une soupe, ou alors elle prend la dose de salade à côté, histoire d'avoir du vert en plus, quoi. Et là déjà, elle a moi mes repas en moins de 15 minutes, ils sont préparés, quoi. Donc je sais pas comment on peut mettre ne pas avoir le temps, quoi. Et pourtant, je fais des trucs. Bon, les gens qui me suivent un petit peu, ils voient que des fois, il y a des trucs qui sont sympas, quoi. Enfin, t'as l'impression que ça prend plus de temps, mais c'est toujours du rapide, quoi. Donc, ouais. Mmh. Après,
Non, mais c'est intéressant. C'est une question de perception, beaucoup.
Ouais, de perception. Mais déjà, pour bien manger, ne cherchez pas le jeûne intermittent, le machin, le... Non, c'est pas une méthode ou autre. C'est manger non transformé. Ensuite, si vous voulez pousser le truc un peu plus loin, inspirez-vous de la diète méditerranéenne au maximum. C'est la diète qui, à mon sens, est la plus représentative de ce qu'il faudrait manger. Parce qu'en fait, elle est moins stricte et moins sévère que la paléo, mais elle reste quand même cohérente. Parce qu'il y a un petit peu de produits céréales complètes et tout ça. Moi, j'en mange pas parce que je les tolère pas, mais beaucoup de personnes les consomment encore. Ça me semble plus cohérent parce qu'il y a moins de viande que de poisson, il y a quelques œufs, il y a beaucoup de légumes, il y a les bonnes graisses, enfin voilà. Et là, je dis plein de choses comme ça aux gens, ils savent pas quoi consommer. Donc, renseignez-vous un petit peu sur cette diète-là, c'est très bien. Bon, sinon, après, vous pouvez aller me voir sur mon site, il y a pas de problème, je pourrais vous aider. Mais fondamentalement, moins c'est transformé, mieux c'est. Et si vous apprenez à faire une liste de courses avec des produits non transformés, en fait, c'est un engrenage, vous allez bien manger parce que vous allez faire les courses, vous allez prendre les bons produits. C'est les bons produits qui vont rentrer dans vos frigos. Donc vos frigos, vos placards sont remplis de bons produits. Donc si même si vous craquez parce que vous êtes un peu au régime, vous avez faim, vous levez la nuit pour manger, vous allez craquer sur des bons produits. Ça sera toujours mieux, même s'il faut pas craquer et pas faire des crises de boulimie et tout, je suis d'accord. Mais je veux dire, si vous vous levez la nuit pour prendre un bout de j'en sais rien, de ce que vous voulez, eh ben ça sera des bons aliments. C'est moins strict psychologiquement à entendre que de dire bon tu vas manger tout le temps strict et zéro écart. Moi j'essaye d'orienter les gens comme ça, de dire que si ils font passer par la porte de chez eux que des bons aliments, eh ben toutes les prises alimentaires de la journée et de la nuit etc seront au moins d'origine saine. Voilà.
Parfait. Ouais, bonne réponse, j'ai envie de dire. Non, mais ça indique déjà les bonnes bases et que les gens peut-être essayent de commencer sur ces conseils-là, sur ces idées, et ensuite aller tranquillement.
Mais ça, en fait, c'est pour manger, comme tu dis, équilibré. Équilibré entre guillemets, hein, parce que équilibré, ça veut rien dire, mais pour manger quelque chose d'adapté à notre physiologie. Après, si une personne veut perdre du gras et tout, c'est différent. Hein. Là, on va devoir rentrer un petit peu dans des diètes particulières qui sont pas dures à mettre en place non plus, mais qui voilà, qui sont. On n'est plus dans le confort et dans le bien-être. Là, on est dans le j'ai besoin d'utiliser mes graisses de réserve à des fins énergétiques, donc il va falloir mettre un coup de collier. C'est différent. Je fais bien la différence entre les deux. Les gens qui disent en mangeant équilibré, on peut maigrir, oui, mais on va maigrir sur 5, 6, 7, 8, 10 ans peut-être. Et le facteur de motivation qui est les résultats rapides pour beaucoup de gens, ils vont pas arriver. Donc les gens vont arrêter de manger sainement parce qu'ils vont se dire à quoi bon, je perds pas de poids, donc je reprends mes pépitos quoi.
Pour finir sur ce mode de vie du sportif, c'est là où je vais faire le pont avec la santé parce qu'on fait pas tout ça. Enfin, on fait tout ça pour le plaisir, mais on fait tout ça aussi pour sa santé, pour être en meilleure santé, être en forme tous les jours, etc. Ce qui m'amène à transitionner vers un petit peu plus un domaine qui est le mien dans un sens, à savoir la thérapie, hein, puisque je suis ostéopathe ici à Montréal. Et est-ce que toi, tu considères que dans ce mode de vie du sport, de la santé, du fitness, il est nécessaire d'aller consulter des thérapeutes? Pas nécessairement des ostéos, hein, mais ça peut être d'autres thérapeutes. Et toi, est-ce que tu as une expérience là-dessus? Est-ce que tu as une fréquence que tu recommanderais sans forcément, je veux dire, on n'est pas là pour donner des conseils spécifiques hein, sur faites ceci, faites cela, mais déjà, rien que partager ton expérience, je pense que ça pourrait aider en tant que patient.
Ben moi je me rappelle que quand j'ai démarré la muscu, on se disait bon il faut y aller une fois tous les 6 mois. On disait ça avec les anciens. Alors moi je suis pas un ancien, mais les anciens disaient j'essaye d'y aller une fois tous les 6 mois. Moi j'y suis allé ponctuellement au début. C'est vrai que c'était plaisant etc. Mais tant que tu ressens pas le besoin, c'est-à-dire tant que tu n'as pas mal, t'as du mal à te réguler sur ça. Quand j'ai commencé à me faire mal à l'épaule. Là, j'ai fait des périodes où pendant 1 an ou 6 mois d'affilée, j'y allais quasiment peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc, c'était ou de l'ostéo ou du kiné. En règle générale, c'était plutôt du... Alors moi, mon kiné faisait ostéo. J'en avais un qui faisait ostéo et l'autre qui faisait de la fasciathérapie. Donc, ça n'a jamais été que pur kiné. Mais aujourd'hui, je pense que c'est intéressant quand même d'essayer d'y aller... Pour vraiment quelqu'un qui s'entraîne sérieux, je parle, hein, pas juste la petite pratique. Une fois par mois, c'est bien, quoi. Et si vous avez des douleurs, franchement, n'hésitez pas à bombarder de séances, quoi. Moi, d'y aller, j'ai sauvé mes douleurs, mes blessures. Je les ai pas sauvées avec du collagène ou quoi, hein. Je les ai sauvées avec des thérapies. Et parfois, des thérapies longues, hein. Je me rappelle, moi, à l'épaule, pendant 6 mois, j'ai eu mal. Au pec, je me suis fait une petite déchirure musculaire, mais vraiment minime. Ça a mis du temps et parce que j'ai pas joué au con. Hein, j'ai attendu, j'ai pas repris le coucher. Enfin, j'ai pas repris les exercices qui me faisaient, qui m'avaient provoqué la blessure. Donc ça a été long. J'ai voulu faire correctement les choses. Ben voilà. En plus, en France, on a la chance, c'est remboursé pour le kiné. Mais je pense que quand on est blessé, tant qu'on nous passe des séances, qu'on a encore en mal et tout, faut pas hésiter à aller voir le médecin et les réclamer. Et sinon, quand tout va bien, bah, il faut faire en sorte que tout continue à aller bien. Donc, y aller régulièrement, une fois par mois, je trouve que c'est cohérent. Après, souvent, l'ostéo, moi, je sais que mon ostéo, il me dit, en fait, il me dit, reviens dans tel jour, dans tant de semaines. Et ça, je pense qu'au début, je les écoutais pas. Maintenant, je les écoute un peu plus.
Ouais, c'est très personnalisé toujours. Si on peut donner des grandes lignes, effectivement, bon, tous les 6 mois ou tous les ans, ça peut être intéressant pour faire un bilan de routine, on va dire, hein, pour voir si tout bouge bien, s'il y a une bonne mobilité, si la posture est correcte, ou même si par rapport à une activité, s'il n'y a pas trop de déséquilibre qui se mettent en place, d'un point de vue ostéopathique, par exemple. Mm-hmm. Après, c'est extrêmement personnalisé, comme tu le disais, parce que faut souvent écouter le thérapeute. S'il a envie de vous revoir 2 semaines après, bon, en général, il y a de bonnes raisons. Surtout s'il est capable de vous expliquer pourquoi et quel va être l'objectif. Voilà, faut toujours écouter les choses qui sont pertinentes. Est-ce que tu as d'autres expériences? Tu as déjà vu d'autres thérapeutes? Je pense, tu as parlé de kiné, d'ostéo. Est-ce que tu as déjà vu, par exemple, des naturopathes?
Naturopathe, non. J'ai testé l'acupuncture. J'en ai fait 3 fois avec une nana et 2 fois avec un mec. Et j'ai eu des super bonnes expériences différentes avec les uns et les autres. Je trouve que l'acupuncture est bien, mais pas forcément. Là, on est. Alors, si le sport vient se greffer à un style de vie assez stressant, moi, c'était une période dans ma vie où j'étais très stressé. L'acupuncture m'a aidé là-dessus. Aujourd'hui, j'en ressens pas le besoin, si tu veux, parce que je juge pas mon niveau de stress suffisamment haut pour aller consulter. Mais à une période, l'acupuncture m'a pas mal aidé. L'hypnose, ça, c'était beaucoup par curiosité, j'en ai fait aussi, mais après, pareil, c'est pour le stress, etc. Et puis j'avais cette curiosité d'un petit peu de savoir comment ça fonctionnait. Et d'ailleurs, j'ai appris à en faire moi-même par la suite. Alors pas à faire sur d'autres, hein, mais à en faire sur moi-même, à faire de l'auto-hypnose. Donc voilà à peu près ce que j'ai testé. Je pense pas avoir oublié, non. C'est plus ou moins les choses que j'ai testées.
J'ai enregistré un épisode sur l'acupuncture avec un ostéopathe qui est aussi kiné et acupuncteur, qui est pas encore sorti au moment où on enregistre cet épisode-là, mais qui le sera normalement. Donc je t'invite Théo, toi, si t'as envie de l'écouter, il sera sorti d'ici quelques semaines. Ouais. Et puis tous les auditeurs aussi, parce qu'il y a énormément de choses que j'ai appris. Moi, je connaissais très peu l'acupuncture. Faut savoir que c'est pas tant une thérapie qu'il faut prévoir lorsque la douleur est déjà là, mais plutôt en amont. On est vraiment dans ce système de prévention, la médecine non occidentale, qui est à savoir d'aller consulter, de faire des rééquilibrages avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc c'est peut-être pour ça, j'ai jamais vu d'acupuncteur en moi-même encore, donc c'est peut-être pour ça que tu n'as peut-être pas trouvé la bonne résonance par rapport à cette discipline au moment où t'es allé consulter. Je sais pas, bon, ça peut s'expliquer par plein de choses, mais c'était juste pour dire ça, en fait, pour rappeler les gens à écouter l'épisode, c'est intéressant.
Les gens doivent être curieux avec tous ces thérapeutes parce qu'ils se sont pas tournés vers ces disciplines pour rien. Ils ont certainement un intérêt de le faire. Enfin bon, voilà. Je pense que après, faut avoir les moyens aussi, parce que c'est pas donné les séances et tout. Mais n'hésitez pas, quoi. Et vous laissez pas embarquer surtout dans les gens qui disent c'est pas des vrais médecins, on parle pas de médecins ou pas médecins. Là, ce sont des thérapeutes, ce sont des personnes qui peuvent potentiellement vous aider sur votre problème. Et vous aurez votre réponse qu'en y allant. Donc voilà.
Et j'en ai parlé aussi dans quelques podcasts précédents, notamment avec des sportifs et des athlètes. J'aimerais ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est intéressant de faire des bilans sanguins régulièrement pour le sportif amateur ?
Ouais, sportif et pas sportif, mais tout le monde.
Oui, bien sûr.
Tout le monde régulièrement devrait y passer pour voir un petit peu où il en est, etc. Même si c'est pas super représentatif, on va dire, de tout, puisque c'est à un instant T, mais ça donne quand même des bonnes indications, ça permet de rassurer, etc. Moi, je pense que oui, il faut peut-être chaque année, c'est bien. Enfin bon, après, pour les plus jeunes, peut-être pas, mais assez régulièrement. Gundil lui parle de faire contrôler même son cœur. Bon, après, il y a tous ceux qui ont les nouvelles montres connectées et tout là, qui prennent les cardiofréquences, pas comment on appelle ça là, je sais plus là. Le nom de ce que fait l'Apple Watch, là. Je sais plus. Elle fait un nouveau truc. Un électrocardiogramme ou je sais plus trop quoi. Elle fait un truc plus complet, par exemple, que la Fitbit ou ses autres montres. Donc, on a maintenant des outils qui peuvent nous aider un petit peu aussi, les outils de biofeedback, comme ça. Les bilans sanguins, ça peut être une bonne idée pour voir où on en est, tout simplement.
D'accord. Bah, à retenir, j'ai regardé aussi de mon côté. Je suis assez curieux de l'Apple Watch que tu parles, de voir ce qu'elle fait.
Je l'ai offert à ma copine la dernière. Et en fait, si tu mets ton doigt à un endroit, plus il y a les capteurs dessous, et cette montre, en fait, permet, si elle détecte une anomalie, elle ou que tu tombes ou quoi, elle te prévient, en fait. Elle te le dit, non mais là, allez consulter.
Alors là, ça peut avoir du sens pour le coup.
Eh oui. Et puis si tu tombes aussi, ça appelle les flics. Ouais, je suis en train de leur pas les flics, mais les pompiers ou les secours. C'est non, mais là Apple Santé, ils sont en train de faire un truc. Alors il y aura toujours des gens qui diront ouais, mais ça fonctionne mal et tout. Mais moi, je trouve qu'ils ont fait quand même quelque chose de qui fait avancer les choses, quoi.
Bon, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour
ouais.
Sur le sport, les habitudes, la santé. Pour conclure chaque épisode, moi j'ai l'habitude de poser trois petites questions de fin. Je me suis évidemment inspiré, pour ceux qui l'ont remarqué, du podcast Marketing Mania. La première question que j'aime bien poser, c'est quel est le meilleur conseil, toi, que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui commencerait le sport et qui ne connaît pas encore beaucoup de choses. On a beaucoup parlé d'astuces, de conseils tout au long de l'épisode, mais s'il y a une première chose pour mettre le pied à l'étrier, tu dirais quoi ?
Trouve le maximum de gens qui ont réussi et qui font ce que tu démarres aujourd'hui. Pour te créer autour de toi, si possible, et si pas possible, dans les bouquins, sur YouTube, sur Instagram, etc. Crée-toi un environnement où tu peux observer des gens qui ont réussi et qui sont plus loin que tu ne l'es déjà. Ça, c'est mon premier conseil.
Alors, deuxième question. Justement, est-ce que toi, tu as eu un modèle comme ça ou un mentor qui l'est encore aujourd'hui et qui t'a servi dans tout ton parcours?
Je vais pas être original, mais oui, il y a eu Arnold. C'est plutôt les figures du cinéma, moi. On va dire moi, c'est plutôt le cinéma qui m'a poussé à ça. Moins les bodybuilders et tout, plus les acteurs, quoi. Les acteurs qui sont évidemment tankés.
Mais t'avais une envie de faire du cinéma ou c'était uniquement pour la physique ?
Non, mais tu sais, le cinéma véhicule une histoire et donc du coup, on arrive plus facilement à s'identifier parce qu'on s'identifie pas à l'acteur en fait, on s'identifie au personnage. Et c'est beaucoup plus facile parce qu'un film raconte une histoire, donc on peut s'identifier. Alors qu'une personne comme ça dans la rue, il a beau être musclé, il va pas nous inspirer forcément parce qu'on le connaît pas, on connaît pas ses convictions, etc. Donc moi je pense que c'est comme ça en fait, que ça a toujours plus été la fiction qui m'a plu plutôt que la réalité. L'acteur en lui-même m'intéresse pas en fait.
Et est-ce que t'as un personnage de film particulier auquel tu penses ou pas nécessairement?
Mais Arnold, je pense que dans ses premiers films, ouais, qui c'est qu'on pourrait avoir aujourd'hui en acteur qui est bien tanké? Il y a plus grand monde. Hein. Bah, The Rock pour moi c'est trop maintenant.
Ouais, bon, après il y a Jason Statham peut-être,
ouais,
qui est
ouais,
pas mal
voilà,
apprécié.
Plus ce Jason Statham, ouais, qui a plus un physique qui ressemble à quelque chose de naturel. Mais bon, maintenant ils sont tous plus ou moins musclés en peu de temps. S'il y en a un qui est super bien tanké, il joue dans une série que j'ai pas regardée, mais qui s'appelle, je sais plus, c'est pas Startup ou je sais plus trop. Non, pas Startup. C'est un Indien. Il joue dans une série. Je suis abonné sur Instagram à ce gars-là et il s'est transformé à une vitesse et il a un très bon physique. Non, mais évidemment, Wolverine, là j'y pensais pas, mais comment il s'appelle, Hugh Jackman. Lui, pour moi, il avait réussi. Pour un mec qui vient pas du sport, il a réussi à avoir un niveau de fou, quoi. Et qui ressemble à quelque chose de naturel, qu'il le soit ou pas, on s'en fout, mais ça ressemble à quelque chose de naturel.
Et troisième question, est-ce qu'il y a un livre, toi, qui t'a particulièrement marqué, que t'as envie de recommander ou que tu recommandes souvent autour de toi ?
Il y en a tellement. Je pense que c'est... J'ai le droit de dire un livre audio ?
Ouais, tu peux dire ce que tu veux.
Ouais, bah alors, le livre audio de Peterson, là, 12 règles pour une vie, je crois que c'est ça.
Ouais, alors c'est marrant parce que je l'ai lu il y a pas un mois de ça. Donc
mais moi en fait, ouais, comment je l'ai lu,
règles pour une vie,
quand,
c'est ça.
Quand je sais que je l'ai lu plusieurs fois d'affilée ou écouté plusieurs fois d'affilée, je sais que c'est un bon. Avant, je t'aurais dit celui de comment il s'appelle, d'Elon Musk, mais là aujourd'hui, je trouve que celui-là est plus pertinent. Alors, enfin, même si je trouve que ses interventions ses cours vidéo sont plus intéressants que son livre. Vu que tu m'as parlé de livre, je préfère recommander le livre.
Ouais, et tu vois, lorsque j'ai eu terminé ce livre, 12 règles pour une vie de Jordan Peterson, j'en ai pas gardé un grand souvenir. Enfin, lorsque j'ai vraiment terminé le livre, je me suis dit bon, c'était un bon livre de développement personnel ou de réflexion sur la vie, les objectifs et comment se comporter, etc. Mais bon, voilà, j'avais un peu l'impression que c'est des choses que j'avais déjà lues. mais racontées peut-être différemment, avec un style différent. Et c'est les semaines qui ont suivi, en fait, par rapport à des situations ou des environnements que je vivais, que certaines règles me réapparaissaient. Et que je trouvais intéressant, et ça a un petit peu changé ma perception des choses. Je pourrais pas donner d'exemples précis parce que j'en ai pas réellement là qui me viennent en tête, mais c'est plutôt si je dois faire un bilan général du livre, ça m'a peut-être appris à essayer de faire les choses mieux, mais pas dans le sens mieux pour moi, mais mieux pour le monde. Alors ça peut paraître extrêmement ça fait très Gandhi de dire ça, tu vois, mais je trouve que le livre a quand même atteint un objectif qui est de montrer que faire le bien, ou en tout cas mettre en place des choses qui vont dans le sens du bien, c'est le bien pour soi, le bien pour les autres, le bien pour tout. Et je sais pas ce que t'en penses sur cette idée-là. Je trouve que pour ça, déjà, ça atteint carrément son objectif.
Ouais, mais ce qui est marrant, moi, c'est qu'on n'en tire pas tous la même chose. Parce que moi, tu vois, ce que je retiens le plus de ce bouquin, et que maintenant, je l'ai tellement intégré que je l'utilise même dans ma façon de penser, de parler, etc. Pour moi, c'est l'ordre et le chaos. Moi, en fait, l'ordre et le chaos dont il parle dans son bouquin, pour moi, c'est quelque chose, c'est tellement clair, c'est tellement réaliste de voir le monde de soit tout est en ordre, soit c'est le chaos, et en fait, de travailler à remettre de l'ordre dans le chaos en permanence. Et moi, c'est comme ça que c'est ça que j'ai l'enseignement, le plus gros enseignement que j'ai tiré de ce bouquin. D'essayer de mettre, de remettre de l'ordre dans le chaos. Donc, par exemple, en ce moment, c'est le chaos à l'extérieur parce qu'on peut pas sortir, bah, mettre de l'ordre chez soi pour que ça soit le plus vivable possible. Pour moi et pour ma nana, par exemple.
Je suis d'accord.
Mais, ouais, je pense que il est tellement dense, ce livre. Il y a, chaque chapitre a plus ou moins son identité, chaque chapitre pourrait plus ou moins être un petit livre, quoi. Et je pense que les gens, chaque personne qui le lira tirera. Et puis il y a des gens qui vont être pas du tout réceptifs à ça parce que il est quand même très pointé du doigt parce que justement il est pas du tout dans la pensée positive et tout et voilà quoi.
Bon, parfait. Écoute, si on veut en apprendre plus sur toi, si des gens veulent te retrouver, que ça soit sur ta chaîne YouTube, ton site, ou même s'ils veulent te contacter, je sais que tu réponds aux mails qu'on t'envoie, tu le dis régulièrement. Où c'est qu'ils peuvent te retrouver, où c'est qu'ils peuvent te contacter?
Bah, le mieux, c'est www.fitnessmith.fr. Sur mon site internet, ils auront tout. Ils auront à la fois, justement, mon blog, de quoi me contacter. Ils auront tous les podcasts. Ils auront mon mail du matin également. Après, en fait, vous prenez le nom du site et puis sur n'importe quel réseau social, j'y serai. Donc, FitnessMe, ça sera sur Instagram, YouTube, Facebook. Le plus intéressant, je pense qu'aujourd'hui, c'est Instagram parce que il y aura des petites photos de recettes et tout, ce sera plus intéressant pour eux. Mais bon, après, mon identifiant est le même partout. Donc, c'est assez simple, sauf sur Twitter, je crois. Mais vu que j'y vais jamais, c'est pas grave.
Bon, je laisserai les liens correspondants dans les notes de l'épisode. Tu me donneras aussi ce que tu me parlais tout à l'heure, le lien vers la formation gratuite dont tu parlais.
Oui.
Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter ou un message que tu voudrais faire passer?
Non, continuez à écouter des podcasts. Ça vous aidera certainement à beaucoup plus apprendre de nouveautés, de choses intéressantes que des petites vidéos YouTube. Parce que le podcast, on n'est pas tenu d'avoir un format particulier pour faire de l'audience. Et sachez une chose, c'est que sur YouTube, oui. Donc si une personne a que YouTube, elle va modeler sa chaîne pour répondre aux algorithmes et aux statistiques et tout ça. Donc son contenu peut être un peu dénaturé. Donc continuez, les gens qui écoutent, à écouter plutôt qu'à voir, parce que ça vous permettra d'avoir certainement des informations beaucoup plus intéressantes. Et comme me disait il y a quelques temps maintenant un grand professeur, il me disait il y a une différence entre savoir et comprendre. Et savoir, c'est quand on apprend une information comme ça très rapidement, et comprendre, c'est quand on prend le temps de la maîtriser. Soyez plutôt dans le comprendre. Donc le podcast est assez bien pour ça.
Merci Théo d'être passé, je te dis peut-être à très bientôt.
Merci beaucoup à toi pour ton invitation.
C'était top. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous êtes l'élite des sportifs, on peut dire. Merci à Théo d'avoir participé au podcast, répondu à mes questions et d'avoir évidemment donné autant de contenu intéressant. Partager à un ami qui a du mal à se créer de bonnes habitudes, on connaît tous des gens dans notre entourage qui sont comme ça, et très souvent c'est nous-mêmes d'ailleurs, qui ont des bonnes résolutions mais qui ont du mal à s'y tenir peut-être, ou tout simplement qui sont dans ce cheminement de vouloir améliorer drastiquement son mode de vie et qui se reconnaîtraient dans le parcours de Théo. Si vous voulez aller un petit peu plus loin pour aider le podcast, vous pouvez laisser une évaluation de 5 étoiles et un commentaire pour m'encourager et me filer un petit coup de pouce. Pour ça, rien de plus simple, si vous écoutez le podcast sur iPhone, vous pouvez aller sur l'application Apple Podcast. Sinon, sur iTunes, vous me laissez une note de 5 étoiles avec un commentaire, ce qui sera encore plus apprécié. Et vous verrez d'ailleurs votre pseudo apparaître dans les avis du podcast Biomécanique. Ça sera un petit peu votre bonne action de la journée. Vous verrez, vous vous sentez juste après ça super bien. Et j'en parle en connaissance de cause, car j'écoute moi aussi des podcasts. Et je connais cette sensation d'avoir laissé un avis positif sur un podcast que l'on apprécie. Pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie vraiment. Et pour ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, merci à vous. Vraiment, vous êtes top. Je vais pas vous embêter trop longtemps. Je rappelle juste une dernière fois que vous pouvez vous inscrire à la lettre biomécanique. C'est le premier lien dans les notes. Vous recevrez mes emails privés de temps en temps à la sortie de nouvel épisode. Généralement, c'est pas plus de 2 fois par mois, donc je vous harcèle pas. C'est rapide à lire et le but, c'est de vous donner des conseils et de vous partager des réflexions ou mes découvertes du moment d'ailleurs, qui sont en lien avec vos entraînements, avec l'amélioration de votre santé et bien sûr de votre mode de vie. Bonne journée à tous. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode du podcast Biomécanique. Ciao.